Vous êtes sur RTL.
Merci beaucoup, Julien. Bonne journée à toute l'équipe de l'Opti Matin et bonjour à tous. Nous allons ce matin vous donner tous les détails sur la campagne de vaccination assumée et en quelque sorte relancée hier par le président de la République. Emmanuel Macron promet à tous les Français qu'ils veulent d'être vaccinés d'ici la fin de l'été. Et pour détailler tout cela, nous allons procéder en plusieurs étapes. Dès la fin du journal, Olivier Bost nous explique pourquoi et comment le président français et la chancelière allemande défendent la stratégie européenne. À 7h40, l'invité d'Alba Ventura et ce matin, la présidente de la Haute Autorité de Santé, Dominique Le Guludec. Elle détaillera les décisions et l'arrivée du fameux vaccin AstraZeneca. Enfin, à 8h20, nous détaillerons, nous, la campagne, les moyens, avec la ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Enfin, Pierre Palmade est notre invité dans Laissez-vous tenter, puisque vous le retrouverez pour le Grand Restaurant ce soir sur M6. Et il sera avec nous et Isabelle Morini-Bosque dès 9h. Nous sommes le mercredi 3 février 2021. Vous écoutez RTL. Très bonne journée à tous. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
C'est l'endroit qui, depuis un an, alimente tous les soupçons.
L'Institut de virologie de Wuhan, l'un des endroits les plus secrets du pays, d'où pourrait s'être échappé le virus. Les enquêteurs de l'OMS le visitent en ce moment même. Notre correspondant nous attend sur place. Un vaccin pour tout le monde d'ici la fin de l'été. Promesse hier soir d'Emmanuel Macron, vous l'entendrez, alors que la progression du variant britannique continue d'inquiéter. D'autant qu'il pourrait lui-même avoir muté. Nous irons à Londres pour tout comprendre. À suivre également le silence coupable des proches du petit Tony. Tout le monde avait des soupçons, mais personne n'a jamais rien dit. Et puis, l'OM s'enfonce dans la crise. Le club n'a plus d'entraîneur ce matin à quelques heures d'un déplacement à Lens.
La politique avec Olivier Bost.
Défendre coûte que coûte la stratégie vaccinale européenne.
Vos explications dès la fin du journal, Olivier.
RTL Matin.
Connaîtra-t-on un jour l'origine de ce virus? C'est en partie le travail, vous le savez, des experts de l'OMS en mission depuis plusieurs jours en Chine pour tenter d'enquêter sur d'éventuelles défaillances qui auraient pu mener à cette catastrophe sanitaire. Ils étaient dimanche sur le marché de Wuhan et ce matin, lieu hautement stratégique, c'est l'Institut de virologie qu'ils sont en train d'inspecter. Visite ultra sensible, notamment pour le pouvoir chinois qui dément toute négligence. Stéphane Pambrin en Chine pour RTL.
C'est dans un épais brouillard que le cortège des voitures a pénétré tôt ce matin dans ce qui constitue l'une des zones les plus secrètes de Chine. Et comme à chaque visite des experts de l'OMS, la police est sur place pour empêcher les journalistes d'approcher. L'Institut de virologie de Wuhan, plus connu sous le nom de laboratoire P4, est un vaste ensemble de bâtiments rouge-briques, construits avec l'aide de scientifiques français. Beaucoup de fantasmes autour de cet institut qui se trouve à une heure de route du centre de Wuhan. L'équipe des 10 scientifiques a travaillé plusieurs heures à l'intérieur. Le chef de la délégation, le britannique Peter Daszak, a juste eu le temps de lancer quelques mots en arrivant sur place. « S'il y a quelque chose là-bas, nous le trouverons », a dit ce zoologiste. La Chine affirme que le virus ne s'est pas échappé de cet institut, mais aucune conférence de presse ou déclaration officielle n'est prévue pour l'instant.
Stéphane Pambrin, l'un des correspondants de RTL en Chine. De nouveaux chiffres et une nouvelle promesse hier soir, celle de vacciner tout le monde d'ici la fin de l'été. Tous les adultes qui le souhaitent en tout cas pourront recevoir le traitement. Si l'on en croit le chef de l'État, Emmanuel Macron, invité du 20h de TF1 à l'issue d'une réunion avec les laboratoires.
Nous avons aujourd'hui sécurisé au niveau européen environ 2,3 milliards de vaccins. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui certain. Ça signifie pour la France que pour tous les adultes qui le souhaiteront, nous serons en mesure de leur proposer un vaccin avant la fin de l'été.
Et 4 sites français vont d'ailleurs dès la fin du mois se mettre à produire des vaccins anti-Covid. Emmanuel Macron qui par ailleurs exhorte les Français à rester, je le cite, extraordinairement responsables face au coronavirus. C'est la mobilisation de tous qui permettra d'éviter un reconfinement selon le chef de l'État alors qu'un nouveau conseil de défense sanitaire se réunira tout à l'heure. Car la progression du variant britannique notamment continue d'inquiéter les autorités et ce ne sont pas les dernières informations en provenance de Londres qui seront de nature à les rassurer. Car la souche aurait une nouvelle fois muté, elle se serait adaptée pour devenir encore plus agressive. Expliquez-nous Marie Billon.
Cette nouvelle transformation permettrait à la souche anglaise d'être moins facilement repérée par les anticorps qui combattent le virus. Pour les experts, c'est un développement inquiétant mais pas inattendu non plus. C'est une mutation qui a déjà été repérée dans les variants sud-africains et brésiliens et les scientifiques disent qu'il y a du positif là-dedans. Le virus mute, oui, c'était prévu, mais il semble muter d'une manière similaire où qu'il soit, à Londres, à Johannesburg ou à Rio. Ça enlève l'élément de mauvaise surprise et ça permet aussi scientifiques de mieux identifier ces modifications et de trouver des moyens pour les combattre. Pour l'instant, les vaccins approuvés semblent rester efficaces contre ces transformations, mais moins que sur le virus original. Les chercheurs peuvent assez facilement adapter le vaccin si besoin, mais l'important, disent les médecins comme le gouvernement britannique, c'est de limiter au maximum la propagation de cette nouvelle mutation en respectant le confinement en vigueur et en multipliant les tests pour les personnes asymptomatiques aussi.
Marie Billon à Londres pour RTL.
Et dans ce contexte, les vacances de février démarrent vendredi, après-demain pour la zone A, à peu près normalement.
Oui, si l'on fait abstraction de la fermeture des stations de ski, des musées, des cinémas, des restaurants, des parcs d'attractions, il sera encore possible de se déplacer, jusqu'ici en tout cas, mais uniquement en France métropolitaine. Difficile néanmoins dans ces conditions de faire des plans. Pour beaucoup de familles, c'est un peu au jour le jour. Reportage à Lyon de Raphaël Vantard.
Pas de compte à rebours à la maison cette fois-ci. Laetitia, maman de deux enfants, évite de leur parler des vacances. À deux jours des congés d'hiver, elle et son mari n'ont pas encore pris de décision pour un éventuel départ.
Non, on sait pas. Non. On attend le dernier moment pour pouvoir peut-être changer d'air. Je crois qu'on en a tous besoin. Hein. Si on peut se déplacer entre les régions, on ira faire un tour à la mer, par exemple.
La mer, la destination fait évidemment écarquiller les yeux de la petite Éline, 5 ans.
Aller à la mer, j'ai envie de dire oui. J'aime bien les vacances.
En cas d'annulation et de vacances à la maison ou même de confinement, Laetitia a fait le plein de provisions pour tous ses enfants.
Le stock des activités manuelles au cas où on serait confiné, hein. Voilà, les jeux de société. Si les vacances scolaires sont rallongées 3 ou 4 semaines, bah, ma foi, on est là, on sera là. Je crois que c'est pour tout le monde pareil. Hein.
Le plus dur, c'est qu'on n'est pas sûr que la situation soit meilleure aux prochaines vacances, lâche Laetitia, avant d'ajouter « Enfin, ce sera le printemps, il fera sans doute beau ». Ce sera déjà ça.
Raphaël Vantard à Lyon pour RTL.
Je vous rappelle les invités de cette matinale, en lien bien entendu avec la campagne de vaccination. Dominique Le Gueuludec, présidente de la Haute Autorité de Santé, à 7h40 avec Alba Ventura. Et nous recevrons la ministre chargée du dossier, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie, à 8h20. Dans un instant, le calvaire du petit Tony devant les assises de Reims et la culpabilité de ses témoins qui avaient tout vu mais n'ont jamais rien dit. À tout de suite.
RTL Matin.
RTL 7h07, la suite du journal de Dominique Tenza. Et si le drame avait pu être évité, si le petit garçon avait pu être sauvé?
Ceux qui ont assisté hier à l'audience au procès du petit Tony n'ont pu s'empêcher de se poser la question. Le garçon de 3 ans, mort sous les coups de son beau-père en 2016, aurait dû attirer l'attention, mais ses proches, sa famille, son entourage n'ont jamais rien dit. Aux assises de la Marne pour RTL, Anne Lehenaf.
L'ancienne directrice de l'école de Tony sourit à la barre derrière ses lunettes. On avait une mauvaise réputation d'école signaleuse. Et ce rire est presque gênant, car il n'y a pas eu de signalement pour le petit garçon de 3 ans. Oui, il avait un bleu sur le front. On a posé la question à la maman, elle nous a dit qu'il était rentré dans un meuble. Ce n'était pas inquiétant en soi. Il y a eu d'autres bleus, ça nous a dérangés. On avait dans l'idée de faire un signalement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le nouveau beau-père de l'enfant, on a eu un mauvais ressenti, c'était pas chaleureux. La mère, peu maternante, il n'y avait pas de grandes embrassades. On était un peu inquiets, mais pas au point de craindre pour sa vie. On a choisi d'attendre qu'il revienne à l'école. Tony ne reviendra jamais, sa mère n'ose plus l'emmener, dit qu'il a une gastro-entérite. Il décédera à la fin de la semaine sous les coups de son beau-père. On a voulu attendre un peu, on a un peu raté.
Anne Lehenaf. Le comédien Richard Berry dément fermement les accusations d'inceste portées contre lui par sa fille aînée. Elle a déposé plainte il y a quelques jours auprès du procureur de Paris. Un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende requis contre Édouard Balladur 25 ans après. L'ancien Premier ministre comparé dans le volet financier de l'affaire Karachi, le procureur général a estimé qu'il ne pouvait pas ignorer l'origine frauduleuse du financement de sa campagne. 2 ans avec sursis et 100 000 euros d'amende requis également contre l'ancien ministre de la Défense François Léotard. L'histoire à présent d'un restaurateur niçois cambriolé 2 fois et qui a lui-même, il y a quelques jours, livré les coupables à la police. Il les avait reconnus grâce à la vidéosurveillance. Il faut dire, Michael Lefebvre, qu'ils n'ont pas été franchement discrets. Racontez-nous cette histoire.
Oui, mercredi dernier, au moment d'ouvrir son restaurant situé face à la baie des Anges, Olivier Daniel, l'un des gérants, a la mauvaise surprise de constater qu'il a été cambriolé. Son réflexe, visionner les bandes de vidéosurveillance.
Ils ont tout touché, tout sorti, ils ont commencé à cuisiner sur la plancha, ils ont mangé pas mal, mais ils ont surtout beaucoup gaspillé. Ils ont jeté du matériel par terre, ils ont récupéré quelques bouteilles, ils ont uriné derrière le comptoir et ils sont partis.
Visiblement satisfaits de la qualité de la nourriture et des bouteilles et profitant des rues désertes du couvre-feu, un des deux cambrioleurs visite une seconde fois le restaurant dimanche soir. Cette fois, sans étrau, les patrons du resto, appuyés par les images vidéo, décident de faire une patrouille dans le Vieux-Nice. Et là, miracle.
En partant le dimanche matin, on est tombé sur au bout d'un quart d'heure sur un des deux individus. Et par hasard, en début d'après-midi, le deuxième est passé devant le restaurant. Et là, je l'ai vu, je suis allé l'intercepter. Et on a contacté également la police qui est venue le chercher.
Olivier s'estime donc chanceux malgré un préjudice de plus de 8000 euros. Jugé en comparution immédiate, les cambrioleurs ont écopé de 6 mois de prison avec sursis pour l'un et 6 mois ferme pour l'autre.
Trahi par la plancha. Récit de Mickaël Lefebvre. Après avoir passé 27 ans à la tête d'Amazon et amassé une fortune personnelle estimée à 200 milliards de dollars, Jeff Bezos, le fondateur du groupe, va quitter son poste. L'entreprise qui vient de publier les résultats de la fin de l'année 2020, elle a vu son bénéfice doubler au quatrième trimestre à plus de 7 milliards de dollars.
7h10, y aura-t-il un entraîneur ce soir sur le banc marseillais? Hier, André Villas-Boas a donc été mis à pied par la direction.
Il avait annoncé lui-même quelques heures plus tôt qu'il souhaitait démissionner. Énième épisode de cette crise que traverse le club. Et comment on est à Marseille où le ballon rond est une religion. C'est la ville entière qui vit la crise. Reportage Étienne Bonu.
À Marseille, entre Canebière et Stade Vélodrome, jusqu'à présent, les présidents de l'OM passaient, les maires, eux, restaient. Et Benoît Payan, le nouveau premier magistrat, ne veut pas déroger à cette règle du jeu. Un maire ici ne se mêle que de très loin aux affaires internes du club.
Ce qui s'est passé ce week-end est insupportable, est inacceptable. Aujourd'hui, il appartient aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, aux actionnaires de l'Olympique de Marseille, de mettre tout le monde autour de la table.
Mais il semblerait que les supporters, justement, ne veuillent plus discuter. Alors on sait que l'OM c'est Dallas, il se passe toujours quelque chose ici, mais cette fois-ci la démission mise à pied de l'entraîneur portugais est un épisode de trop dans la gestion du président Jacques-Henri Hérault, estime Anthony.
Je sais pas moi comment ils se comportent tous entre eux, leur attachement au club, celui de Villas-Boas j'en doute pas. Le problème c'est toujours le même, c'est Hérault. Hérault, on a l'impression qu'il déteste le club plus qu'autre chose. Il aime pas les Marseillais, il a aucun respect, faut qu'il parte loin, très loin.
Et certains supporters comme Alexandre demandent également, et c'est nouveau, le départ de Frank McCourt, le propriétaire américain de l'OM.
Comment on peut accepter qu'un actionnaire d'un club de foot n'ait pas assisté à un match de l'OM depuis 2 ans? C'était un véritable scandale. Ici, il faut comprendre qu'on a une passion qu'il n'y a pas ailleurs.
Bref, l'OM, c'est vraiment un univers impitoyable.
Étienne Baudu, Nasser Largué, l'actuel responsable du centre de formation, pourrait servir ce soir d'entraîneur intérimaire, car dans quelques heures, l'OM affronte Lens dans le cadre de la 23e journée de championnat. Neymar, lui, ne jouera pas ce soir face à Nîmes, puisqu'il est suspendu. Il pourrait en revanche prolonger cette semaine de 4 ans son contrat avec le PSG. C'est ce que croit savoir un journaliste brésilien bien informé qui avait déjà annoncé l'arrivée de l'attaquant en 2017 dans la capitale.
On attendra quand même la confirmation.
On attendra.
Les courses, elles ont lieu à Cannes-sur-Mer.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 4, l'As, le 2, le 3, le 15 et le 10. La dernière minute, c'est le 4, Bellariva.
Je confirme officiellement en revanche que c'était bien le journal de Dominique Tenza. 7h12, la politique avec vous Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Emmanuel Macron et Angela Merkel sont montés hier soir en première ligne pour défendre une stratégie vaccinale européenne très critiquée.
Oui, au fil des semaines, les critiques se sont déplacées de nos territoires nationaux vers Bruxelles, vers l'Europe. Un nouveau refrain embêtant pour nos gouvernants s'est installé. Si aujourd'hui nous n'avons pas assez de vaccins, c'est la faute à l'Europe. Il faut dire que l'Union européenne a montré ses pires travers de lenteur. Elle n'a pas investi dans le développement des vaccins, comme l'ont fait à coups de milliards les États-Unis notamment. Ensuite, l'Europe a lancé bien plus tard que le reste du monde ses négociations avec les laboratoires. Nous ne sommes pas les premiers acheteurs et nous avons lorgné sur le prix dans des contrats restés opaques, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, le summum, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a voulu en fin de semaine dernière contrôler les exportations de vaccins avec le Royaume-Uni, rétablir en douce la frontière avec l'Irlande du Nord pour garder des doses, jusqu'à provoquer un sérieux incident diplomatique quelques semaines seulement après le Brexit. Pour sa défense, devant des députés européens hier soir, Ursula von der Leyen a expliqué les retards parce qu'elle n'a pas voulu prendre de risques avec la sécurité des vaccins. C'est vrai. Et pour résumer la situation, elle dit « Il faut regarder tout ça comme un marathon dont nous n'avons pas encore commencé le premier sprint. » Bon, sauf que dans un marathon, on ne rattrape pas un mauvais démarrage en faisant des sprints. Mais bon.
D'où l'opération sauvetage par Emmanuel Macron et par Angela Merkel. hier soir.
Oui, le président français, et c'est plus rare, la chancelière allemande, sont intervenus à la télévision quasiment au même moment pour défendre leur stratégie et promettre que tous ceux qui voudront être vaccinés en Europe le seront d'ici la fin de l'été. Et pour ça, il compte notamment sur une plus grande coopération entre laboratoires, entre ceux qui ont conçu les vaccins et ceux qui ont des capacités de production. C'est comme ça qu'en France, nous aurons 4 nouveaux sites de production de doses.
Olivier, ce n'est pas la première turbulence que connaît l'Europe depuis le début de l'épidémie. Il y en aura d'autres.
Oui, parce qu'à travers les attaques contre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, c'est la campagne de succession d'Angela Merkel qui a commencé en Allemagne. Après 15 ans de règne, Angela Merkel quitte le pouvoir cet automne. Pour Emmanuel Macron, il y a une autre échelle. Il prendra en pleine campagne présidentielle française l'année prochaine la présidence de l'Union européenne. Et l'un et l'autre ne peuvent donc laisser l'Europe être attaquée et dévalorisée sans rien dire. Ni Angela Merkel ni Emmanuel Macron ne peuvent laisser émerger un nationalisme vaccinal. La stratégie européenne, c'est leur stratégie.
Merci Olivier Bost. Je vous rappelle qu'à 8h20, c'est Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie, qui sera notre invitée. Le président Macron vient donc de promettre ce vaccin à tous les Français qu'il souhaite d'ici la fin de l'été. Et puis nous serons aussi à 7h40 avec Dominique Le Gulludec, la présidente de la Haute Autorité, qui répondra aux questions d'Alba Ventura. Dans un instant, notre brigade de l'actualité nous emmène en Haute-Marne sur une route qui vient de repasser à 90 km/h. Et nous verrons quels sont les freins pour les départements qui souhaitent modifier la vitesse de leur route. A tout de suite.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 7h16, c'était l'une des mesures les plus polémiques du gouvernement d'Édouard Philippe, l'abaissement à 80 km/h des routes nationales. Nous étions en juillet 2018. Mais depuis, de plus en plus de départements ont donc décidé de repasser aux 90 km/h. C'est le cas de la Haute-Marne depuis un an. Pour quel bilan? Voici le reportage de Samuel Goldschmidt.
Un an après, il y a peu de conducteurs de Haute-Marne qui se plaignent. Cédric Michel est dépanneur.
Bah, on revient à l'ancien temps, ce qui est beaucoup mieux. Au moins, on sait où c'est qu'il faut rouler et puis correctement. Plus rapide, on se fait moins surprendre avec les camions aussi. Parce que des fois, ils nous poussaient. C'est vraiment 80 pour tout le monde, c'est trop dangereux. Ils auraient mieux fait de mettre tout à 90 comme c'était avant.
Remettre tout à 80?
Non, surtout pas.
Même chose du côté de Sandrine, conductrice de taxi, qui pointe quand même la concentration nécessaire pour jongler entre les routes à 80 et à 90.
Ça a changé beaucoup de choses dans le sens où on gagne peut-être un petit peu plus de temps. Ça nous permet de gagner un petit peu de course dans la journée aussi. Mais c'est vrai qu'avoir tout toujours l'œil sur le compteur, plus sur la route, plus discute avec le client, c'est assez compliqué, oui.
800 panneaux 90 ont été installés sur les routes concernées, mais l'année 2020 est tellement particulière qu'elle ne permet pas de tirer des conclusions, des chiffres dont dispose le colonel Éric Luzet qui commande les gendarmes de Haute-Marne, quoique certaines tendances le rendent pessimiste.
Sur l'année 2020, nous avons constaté 55 accidents, 3 tués, 59 blessés. Sur les portions routes départementales concernées par le retour aux 90 km/h, en fait, sur les 55, on en a 33 accidents. On a les 3 tués et nous avons 34 blessés. 60% des accidents, 100% des tués et 57% des blessés sur les tronçons qui ont été choisis pour passer à 90.
Il faudrait une année de trafic normal, sans confinement ni couvre-feu pour faire des comparaisons, mais le capitaine Laurent Milot, qui commande l'escadron départemental de sécurité routière, déplore ce retour en arrière.
Franchement, tous les gens qui circulaient sur les routes de Haute-Marne avaient vraiment bien à l'esprit cette notion de vitesse à 80 km/h. Donc c'était bien ancré dans les esprits, on n'avait aucun souci avec ça.
Le président du département, Nicolas Lacroix, assume et défend plus que jamais ce choix. Les tronçons ont été soigneusement sélectionnés.
D'abord, je me suis appuyé sur les agents du conseil départemental qui les connaissent, qui les fréquentent, qui les entretiennent. Et puis on a aussi un classement en fonction de la circulation, en fonction de leur largeur, en fonction de leur entretien. C'est d'abord le réseau structurant qui a été choisi pour un retour à 90. Et c'est finalement 20% du réseau qui absorbe 80% des flux routiers du département.
760 km de réseau départemental sont revenus aujourd'hui à 90 km/h. Le département y fait le pari d'investissements accrus sur le fauchage, les nids de poules, le nettoyage des gravillons, l'installation de glissières supplémentaires pour protéger les motards. Et il n'y aura pas de retour en arrière de sitôt.
Reportage en Haute-Marne de Samuel Goldschmidt. Et pour aller plus loin, on retrouve notre brigade de l'actualité. Bonjour Christophe Brou.
Bonjour Yves.
Combien de départements sont repassés aux 90 km/h, Christophe?
Alors, cela touche désormais un bon tiers des départements français.
français, dernier à franchir le pas, les Charentes-Maritimes, la Mayenne et le Tarn, où depuis lundi, on peut rouler à 90 km/h. Mais attention, pas sur l'ensemble des routes. Dans ces départements, cela concerne entre 100 et 250 km de national. Donc si on fait le calcul au total en France sur environ 400 000 km concernés, un peu moins de 10% sont repassés au 90.
Alors, résultat, la France roule à plusieurs vitesses. Hein.
Oui, alors il y a trois cas de figure. D'abord, ceux dont on vient de parler, hein, qui sont revenus en partie au 90. Puis d'autres qui sont passés dans leur intégralité. Ils sont quatre, la Creuse, la Corrèze, le Cantal et l'Allier. Et enfin, ceux qui ne veulent pas tomber dans le panneau, si je puis dire, et restent au 80 km/h, comme dit les vilaines.
Cette vitesse à la carte peut-elle perturber les automobilistes?
Oui, d'autant qu'en la matière, la France est championne du monde. Autoplus avait calculé que sur un trajet de 140 km, la limitation pouvait changer, tenez-vous bien, jusqu'à 130 fois, soit quasiment un changement tous les kilomètres.
Quel est le coût financier pour changer les panneaux?
Alors, comptez en moyenne 80 euros le panneau, mais à cela s'ajoute la pose, qui elle coûte au moins trois fois plus cher. Pour vous donner une idée, il y a deux ans et demi, la facture du passage aux 80 sur l'ensemble du territoire s'élevait à une dizaine de millions d'euros pour plus de 20 000 panneaux.
Christophe, est-ce que le passage aux 80 a permis de sauver des vies? Question importante.
Oui, selon les derniers chiffres officiels publiés l'été dernier, après 20 mois d'évaluation, il y a bien eu une baisse de tués de l'ordre de 12%, soit au total 349 vies épargnées. Seulement, voilà, rien ne prouve que ce soit dû uniquement à la vitesse, d'autant qu'avec le confinement, aujourd'hui, à l'image de notre reportage dans la Haute-Marne, il est difficile d'établir un bilan pertinent, d'où l'hésitation de plusieurs présidents de département qui peuvent être pénalement responsables en cas d'accident mortel, ce qui refroidit beaucoup de velléités pour un retour au 90.
Est-ce que les Français ont vraiment ralenti sur ces routes?
Oui, mais alors Yves, peu, hein, puisque la vitesse moyenne n'a baissé que de 3 km/h et la limitation n'est pas toujours respectée. En effet, 58% des automobilistes continuent de dépasser le 80 sur ces routes. Rappelons que si vous êtes flashé à 90, eh bien c'est un PV de 68 euros et un point en moins sur le permis.
Dernière interrogation pour être le plus complet possible. Est-ce que le passage au 80 fait perdre du temps?
Pas vraiment, contrairement aux craintes exprimées. Selon des études via les GPS, cette limitation ne fait perdre en moyenne qu'une seconde par kilomètre sur un trajet quotidien. Cela représente moins d'une minute pour un déplacement de 50 minutes.
Sur un trajet de 140 km, la limitation pouvait changer jusqu'à 130 fois. Nous avez, vous, notamment appris. Merci beaucoup, Christophe Bourroux. On retrouve la brigade de l'actualité juste après notre journal de 8h. Sophie Orange nous parlera, bien entendu, des vaccins. Dans un instant, les grosses têtes, la météo avec Louis Baudin et une pépite musicale signée Anthony Martin, que je salue. Bonjour, Anthony.
Bonjour, Yves. Bonjour à tous.
Pardon, je vous ai surpris. À tout de suite.
Vous m'avez réveillé, c'est bien.
RTL. Toujours avec vous. RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h23. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour à tous.
Alors on retourne notre pépite musicale quotidienne.
Oui, on va écouter une version récente d'un des duos cultes de la chanson française. En 1973 sortait le sixième album de Dalida avec à l'intérieur, il venait d'avoir 18 ans, sa reprise de Je suis malade et Parole Parole, rien que ça, vous imaginez. Parole Parole, c'était la version française d'un duo italien sorti peu de temps avant, et pour donner la réplique à Dalida dans le rôle de l'homme qui s'en prend un peu plein la figure, Dalida et son frère Orlando avaient bien sûr réussi à convaincre Alain Delon. Énorme succès pour le duo Dalida-Delon. Ils se connaissaient déjà à l'époque depuis 20 ans. Ils avaient vécu dans le même hôtel à Paris au début des années 50 avec peu d'argent en poche. Et Delon a souvent rappelé qu'ils s'étaient aimés. Il y a 4 ans, on a découvert une nouvelle interprétation de ce duo. Mathieu Chédid a repris Parole Parole dans un album hommage à Dalida, concocté par son copain un trompettiste Ibrahim Malouf. Et pour dire les phrases d'Alain Delon, M avait invité cette actrice. Est-ce que vous la reconnaissez?
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
C'est Monica
Elle
Bellucci.
Elle est italienne.
Voilà. Oui, voilà. C'est bien Monica Bellucci. Et c'est notre pépite du jour. Monica Bellucci et Mathieu Chédid rejouent Parole Parole.
Caramel, bonbon et chocolat. Par moment, je ne te comprends pas. Merci, pas pour moi. Mais tu peux bien les offrir à un autre qui aime le vent et le parfum des roses. Tendre, enveloppée de douceur, se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 encore des paroles. Que tu sais mon vent.
sens t'es parlé comme la première
encore
fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes,
rien que des mots.
Comment résister à cette voix suave?
Ah oui,
Monica Bellucci et Mathieu Chédid qui ont inversé les rôles hein, dans les paroles de la chanson. C'est-à-dire que lui est Dalida et elle, c'est Delon.
C'est ce qui est charmant.
Oui, exactement. On retrouve leur duo dans l'album Dalida by Ibrahim Malouf sorti en 2017.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à un autre qui aime les étoiles sur les dunes.
On les écoute très bien encore un petit moment. Mais enfin,
c'est charmant.
C'est quoi qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Anthony. On se retrouve demain matin. Et bien entendu, on retrouve à tout moment en podcast vos rendez-vous via notre site rtl.fr. Laurent Ruquier et ses grosses têtes vous donnent rendez-vous chaque jour de 15h30 à 18h sur RTL. Du rire, de la bonne humeur et des questions de vocabulaire.
Pourrez-vous retrouver pour moi l'adjectif qui signifie timide, qui craint le risque et les responsabilités, qui manque d'audace, qui manque de courage, de
timoré.
De fermeté. Non, pas timoré.
Fallot.
Ah, c'est joli, fallot.
Oui, c'est mignon. Oui.
Mais fallot vous-même.
Oh,
non.
Dur.
Vous voulez que je vous donne le nombre de lettres comme au mot croisé?
Ah oui. Rétive.
Rétive, non. Mais tout ça sont des adjectifs.
Poltronne.
Poltronne, non.
En combien de lettres?
11 lettres.
On va jouer au pendu.
Non.
Quoi, non, non. Ah, effectivement.
C'est quoi, non, non, c'est toi, oh, qui, non, c'est toi qui anime l'émission. Si j'animais oui. L'émission, tu serais pas là.
Et la bonne réponse était pusillanime. Voilà, cher Louis Bonhomme, on se posait la question. Cet après-midi, Jean-Philippe Janssen, Ariel Dombal, Valérie Mérès, Pierre Palmade, Chantal Ladoussou et Michel Bernier seront avec Laurent. Pierre Palmade, je vous le rappelle, qui est notre invité dans Laissez-vous tenter à partir de 9h pour le grand restaurant ce soir sur M6. Louis Bodin.
Oui.
On vous retrouve avec plaisir et maintenant on veut bien savoir comment va se dérouler cette journée parce que bon,
c'est comme hier.
Ça n'arrête pas.
J'ai l'impression de m'être trompé de carte, je la regarde, mais c'est celle d'hier.
C'est la même.
C'est la même. C'est quasiment la même avec une perturbation qui va de nouveau traverser toute la France. Vous voyez, c'est la même expression qu'hier avec des nuages, de la pluie. Alors, je vais ajouter du vent. Il y a plus de vent qu'hier, 80-90 km/h, y compris dans les terres, en région parisienne, dans la vallée de la Loire, dans l'extrême nord. On aura même parfois de l'orage. Alors au milieu de ces averses, de cette activité, de ce vent, il y aura quelques petites trouées, quelques petites éclaircies ici ou là, notamment au cours d'après-midi. Toujours de la neige dans les Alpes du Nord à partir de 2000 mètres. Et puis toujours du temps sec dans l'extrême sud, entre les Pyrénées et la Méditerranée. Ça restera sec, mais avec là aussi de plus en plus de nuages en cours d'après-midi. Le tout avec des températures qui restent très douces. J'ai toujours pas trouvé de gelée en pleine ce matin. Et cet après-midi, 10 à 14 degrés au moins dans la moitié nord. 14 degrés à Paris, c'est 5 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison. 14 à 18 degrés dans la moitié sud. Bon, ça commence à baisser un petit peu quand même près de l'Atlantique.
Louis, on a vu des images étourdissantes des États-Unis, New York totalement sous la neige, et je crois qu'ils attendent sur l'ensemble du pays une vague de froid absolument incroyable.
Ah, incroyable. Ça, moi, je n'ai pas vu ça depuis très très longtemps sur les États-Unis. On a parlé de la neige, 50 cm, 60 cm possible dans les prochains jours, et on va ajouter le froid qui va s'intensifier pour la fin de semaine avec vraiment des températures très basses. On pourrait bien descendre jusqu'à moins 20, moins 25 degrés, notamment sur l'est des États-Unis à partir du week-end.
Et on a déjà vu ça.
On a déjà vu ça, mais alors c'est très rare. C'est
moins 25.
Moins 20, moins 25 degrés dans New York et en tout cas sur la côte est des États-Unis. Donc ça arrive une fois tous les 30 ou 40 ans. Donc c'est assez rare ce qui va se passer sur les États-Unis.
Merci beaucoup Louis Bonin, RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 3 février. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est un comédien extrêmement populaire qui se retrouve ce matin accusé d'inceste. Richard Berry est mis en cause par sa fille Colline, âgée aujourd'hui de 45 ans. Il a vivement démenti dans un message publié sur les réseaux sociaux. Les faits sont probablement prescrits, Guillaume Chiez.
Oui, des faits qui remontent 37 ans en arrière. À l'époque, Colline, la fille de Richard Berry, issue d'une première union à 8 ans. Selon ses dires, elle aurait été violée et agressée sexuellement jusqu'à ses 10 ans par le comédien et par sa compagne de l'époque, la chanteuse Jan Manson. Le parquet de Paris n'a pas confirmé ce matin l'existence de cette plainte, mais Richard Berry, lui, a répondu dès hier soir en publiant un long texte sur son compte Instagram. « Je dément de toutes mes forces », écrit l'acteur qui explique que ces accusations ont démarré il y a 7 ans et qu'elles ont été relancées par l'apparition du livre de Camille Kouchner le mois dernier sur le thème de l'inceste. Richard Berry explique également que, malgré la probable prescription des faits dénoncés, il s'est lui aussi tourné vers le procureur de Paris. Il réclame l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur ces accusations.
Guillaume Chies du service police-justice d'RTL.
La France devrait monter en puissance sur les vaccins, c'est en tout cas la volonté affichée d'Emmanuel Macron.
Le chef de l'État a promis hier soir sur TF1 que tous les Français adultes qui le souhaitent pourront se faire vacciner d'ici la fin de l'été. Il compte pour cela sur une production made in France. 4 usines vont se consacrer au vaccin anti-Covid à partir de la fin du mois. Il peut compter aussi sur le vaccin AstraZeneca dont les livraisons devraient débuter la semaine prochaine. La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert mais uniquement pour les moins de 65 ans. Et puis qui sait, il y aura peut-être aussi le vaccin russe Sputnik V.
On a vu aujourd'hui des publications qui semblent indiquer une très forte efficacité du vaccin Sputnik. Mais nous ne pouvons pas le distribuer en France tant que le producteur russe n'a pas soumis une autorisation de mise sur le marché à nos autorités. À la minute où il la déposera, les autorités européennes, en fonction de ses résultats, l'homologueront ou pas.
Et pour accélérer la cadence, la Haute Autorité de Santé a également autorisé la vaccination AstraZeneca par les pharmaciens et les sages-femmes, en plus des médecins et des infirmiers. C'est ce que réclamait Gilles Bonnefond, le président de l'Union syndicale des pharmaciens.
Donc là, on amène le vaccin à proximité du domicile du patient, avec les 20 000 pharmacies. Alors ça va pas être facile, bien évidemment, puisque on n'a pas beaucoup de doses. On sent que dès ce matin, les listes d'attente vont commencer à s'installer dans les pharmacies. Mais on voit bien que ce vaccin permet d'aller beaucoup plus vite, entre 50 et 65 ans, parce que sinon, on n'y serait pas arrivé.
Gilles Bonnefond, invité des petits matins d'RTL avec Julien Cellier. Hier soir, Emmanuel Macron a aussi appelé les Français à rester extraordinairement responsables, ce sont ses mots, afin d'éviter un troisième confinement. Car à court terme, le vaccin ne suffit pas, dit-il. Dans ces conditions, à quoi vont ressembler nos vacances d'hiver? Ça commence ce week-end pour la zone A. Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme, se veut rassurant, mais reste tout de même très prudent.
Pour les gens qui partent vendredi, il n'y a pas de restrictions. Le petit Bordelais qui voudra retrouver peut-être ses grands-parents sur la côte basque pourra le faire. Le petit Dijonais qui veut aller faire de la randonnée dans la forêt d'Aude, dans l'Yonne également. Maintenant, on suit comme le lait sur le feu cette pandémie parce que ce virus, c'est un peu l'inattendu permanent.
Jean-Baptiste Lemoyne dans RTL Midi avec Christelle Rebière.
7h33, 17 départements restent en alerte orange aux crues et aux inondations.
Oui, il continue à beaucoup pleuvoir, Louis Baudin nous le disait. En région parisienne, par exemple, la Seine déborde sur les quais de Paris. Et à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, il y a la Seine, mais il y a aussi l'Yerre. Deux cours d'eau, donc, qui devraient atteindre leur pic de crue ce soir. Les habitants sont habitués à avoir les pieds dans l'eau, comme Anutan, qui vit là depuis presque 30 ans. Il prépare ses sacs pour se mettre à l'abri avec sa famille.
Quand il y a la Seine qui monte, après on est infecté par les rats. Regardez, là, la place d'égout, là, elle est en train de se vider. C'est-à-dire que des fois, il y a des jours, il y a des fortes chances, quand vous marchez, vous pouvez tomber dans un trou.
Tous les ans, c'est la même chose.
Tous les ans, c'est la même chose. Il faut juste vivre, survivre, là. Le mot survivre.
Un témoignage recueilli par Hortense Crépin. En Russie, Alexei Navalny a été condamné hier à 2 ans et demi de prison pour ne pas avoir respecté un contrôle judiciaire. Tollé dans le monde occidental qui réclame sa libération immédiate. Moscou, de son côté, dénonce une ingérence. Jeff Bezos ne sera plus le PDG d'Amazon. Le fondateur du géant du e-commerce a décidé de se mettre en retrait pour se consacrer à des causes caritatives ou à l'espace. Bezos reste tout de même président d'Amazon, un groupe qui vient de doubler son bénéfice net à plus de 7 milliards de dollars. En Chine, les experts de l'OMS visitent ce matin l'Institut virologique de Wuhan. Ça fait la une des médias chinois. C'est ce laboratoire qui a été accusé notamment par Donald Trump d'avoir laissé fuiter le virus à l'origine de la pandémie. En sport, une crise chasse l'autre à l'OM. Après l'invasion de la commanderie samedi dernier, hier c'est l'entraîneur André Villas-Boas qui a été mis à pied. Quelques heures plus tôt, il avait lui-même expliqué qu'il voulait démissionner en cause des désaccords sur le mercato. Tout cela alors que Marseille joue à Lens ce soir et dimanche contre le PSG au Vélodrome. Le PSG qui pourrait bien garder Neymar pour 4 années de plus. Le Brésilien serait sur le point de prolonger son contrat. Et puis les Jeux Olympiques cet été à Tokyo, ce sera probablement sans public. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, l'a évoqué hier.
La proposition qui est faite de Thomas Barr et du gouvernement japonais, c'est plutôt qu'on se dirige vers des jeux à huis clos, mais qui permettront néanmoins aux athlètes de venir, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est l'objectif d'une vie. Et puis, pour nous, Français, c'est aussi la transmission entre les athlètes confirmés et la jeune génération. Cette transmission, elle ne se fait nulle part mieux que dans une grande compétition internationale.
La ministre des Sports au micro RTL d'Isabelle Langer. Puis pour promouvoir le sport à l'école, Jean-Michel Blanquer a donné de sa personne hier en participant à un cours de gym dans un établissement parisien. Je pense que ça ne vous a pas échappé.
Non, non, non.
La vidéo du ministre sautillant tourne en boucle sur les réseaux sociaux, détournée, chacun y va de sa petite moto.
C'était pas une plaisanterie, hein, je vous le rappelle. C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. On va se retrouver à 8h40 pour la face cachée de la Une, Isabelle.
Oui, et on parlera d'une conséquence inattendue de la pandémie de Covid, la crise des dons de sperme. Un marché parallèle est en train de se développer.
Rendez-vous est pris, à tout à l'heure. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Il est 7h36, l'Italie cherche son sauveur et vous nous dites qu'il pourrait s'agir de Super Mario. Expliquez-nous.
Oui, rien à voir avec un jeu vidéo, non. Bien sûr, c'est Mario Draghi qui était déjà à l'origine du sauvetage de l'euro en 2012 et qui devrait constituer un gouvernement, mais vous allez le voir, sauver l'Italie, ça sera très, très...
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, l'Angle Écho avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
L'Italie est en crise et le président de la République devrait appeler un homme que l'on qualifie de providentiel.
Oui, il est surnommé Super Mario, c'est Mario Draghi qui a été président de la Banque Centrale Européenne, la BCE, après avoir été l'un des dirigeants de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, et puis il a conduit une carrière de haut fonctionnaire à Rome. C'est l'inventeur de la formule « quoi qu'il en coûte ».
Ah ben voilà,
oui,
Mario.
C'est lui. En 2012, quand il a fallu sauver l'euro de la crise financière, un as de la finance donc, pour remettre sur pied un pays effondré. Effondré par l'épidémie, pas loin de 90 000 morts depuis un an, mais surtout par une économie anémiée depuis 20 ans, et puis ponctuellement par une nouvelle crise politique qui a fait chuter le gouvernement. Draghi va donc se voir confier le soin de constituer une nouvelle équipe qu'il dirigerait en tant que président du Conseil.
Mais l'économie italienne est-elle à ce point effondrée, François ?
C'est incroyable. Elle aura chuté en 2020 de 8,8%. Bon, ça, j'allais dire, c'est normal, c'est à peu près comme la France, c'est normal en Europe, mais la situation qui prévalait avant l'épidémie n'était pas du tout la même que chez nous. Sur les 20 dernières années, en intégrant 2020, la croissance économique de l'Italie est négative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau économique du pays est plus bas qu'au moment où on a lancé l'euro en 2000. Il n'y a aucun exemple comparable dans le monde, en dehors des pays en guerre comme le Soudan. Même le Japon, abonné à la croissance zéro, a fait mieux que l'Italie sur cette période. C'est un véritable affaissement d'un des pays clés de l'Europe.
Ça paraît totalement fou. Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'euro, ça a été une catastrophe pour ce pays qui était habitué à régler ses problèmes de compétitivité par la dévaluation de la lire, son ancienne monnaie. L'euro convient bien à l'Italie du Nord et à son industrie qui est plutôt de qualité, mais c'est une toute petite partie du pays. Et l'euro est bien trop fort pour tout le reste du pays, à partir de Florence jusqu'à la Sicile. L'Italie a été asphyxiée par l'Union monétaire européenne. Conséquence, les jeunes les plus qualifiés émigrent ailleurs en Europe pour travailler. 2 millions de personnes ont quitté la péninsule depuis 20 ans, 160 000 sur la seule année 2019. Alors que le pays connaît aussi une chute démographique préoccupante. L'année dernière, c'était le nombre de naissances le plus faible depuis la fondation du pays en 1861. À peu près 400 000 naissances. Deux fois moins de naissances que de morts. Le nombre de plus de 65 ans est donc l'un des plus élevés au monde et la population active diminue à grande vitesse.
Alors pardon, mais Super Mario, peux-tu redresser tout cela ?
Écoutez, tout au plus peut-il constituer une équipe pour l'après-épidémie grâce à sa crédibilité personnelle. L'une des tâches les plus ardues qu'il attend, s'il parvient au poste de président du Conseil, c'est la gestion du plan de relance européen. Quelques 200 milliards d'euros,
oui.
Pour une petite moitié sous la forme de subventions, le reste sont des prêts à taux très faibles. Ça n'est qu'un traitement palliatif, bien sûr, au regard des problèmes qu'on vient d'évoquer. Mais ça ne sera pas si facile à mettre en œuvre. Habituellement, l'Italie ne parvient à dépenser utilement que la moitié des fonds européens qui lui sont alloués à cause de la bureaucratie, de la désorganisation et de la corruption.
Triste tableau. Merci beaucoup. François Langlais, on se retrouve demain matin sur RTL. Il est 7h41, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
La présidente de la Haute Autorité de Santé, la HAS. HAS a donné son feu vert au vaccin d'AstraZeneca. Alors, pour qui, par qui, comment et bien d'autres questions.
A tout de suite sur RTL avec la présidente de la Haute Autorité de Santé.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la présidente de la Haute Autorité de Santé, Dominique Le Guludec.
Bonjour Dominique Le Guludec.
Bonjour.
Et merci d'être sur RTL ce matin. Vous avez donc approuvé hier l'utilisation d'un troisième vaccin en France, celui d'AstraZeneca. Avant d'entrer dans les détails, un troisième vaccin, ça veut quand même dire qu'on franchit une marche de plus dans la campagne de vaccination. On n'a pas forcément tous les jours des bonnes nouvelles. C'en est une.
Oui, c'en est une excellente. Hein. Et on voit bien que les dossiers sont un petit peu en avance par rapport à ce qu'on espérait. Clairement, la disponibilité des vaccins, des doses, etc., s'accélère dans notre pays. C'est une bonne nouvelle.
Est-ce, grâce à ce nouveau vaccin, vous pouvez nous dire ce matin combien de personnes supplémentaires nous allons vacciner ?
Alors, nous avons réservé ce vaccin aux personnes de moins de 65 ans, comme vous le savez.
On va y
venir. Voilà, nous avons pas tout à fait les données pour l'efficacité pour les plus âgés. Donc, et nous avons un petit peu, comme d'habitude, hein, comme nous avons un nombre de doses limité qui arrive au départ, hein, les premiers mois, nous avons priorisé et nous priorisons pour l'instant deux catégories de personnes. D'une part, les 50-65 ans, 64, comme vous voulez, en commençant par ceux qui ont des risques de formes sévères, c'est-à-dire des comorbidités. Et puis la deuxième population, c'est tous les soignants, secteur santé ou médico-social au sens large.
Mais alors, combien ça fait de personnes en plus ?
Alors, ça fait à peu près 17 millions de 50 à 65 ans. Et ça fait à peu près... Alors, il y a 4 millions environ de professionnels de santé et médico-social, mais il y en a une partie qui déjà est vaccinée hein, dans les deux premières phases. Donc, peut-être qu'il reste plus de 3 millions quand même de soignants à vacciner. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup. Dans les trois premiers mois, ce qu'on sait, c'est février, mars, avril, on a un peu plus de 10 millions de doses qui arrivent. Donc ça fait déjà 5 millions de vaccinés en plus, juste d'ici fin avril.
D'accord. Alors on entre dans les détails. Donc comme les Allemands vous le dites, nous le réservons aux moins de 65 ans. Donc c'est pas une question d'efficacité, c'est ça qu'on doit comprendre. C'est pas parce qu'il est pas efficace, c'est parce que vous n'avez pas toutes les données.
C'est parce que l'efficacité est démontrée chez les moins de 65 ans, elle ne l'est pas aujourd'hui chez les plus de 65 ans, faute d'inclusion dans les essais cliniques. Or, ici, il y a bien une chose auquel nous ne dérogeons pas, c'est la sécurité et l'efficacité. Mais donc, tant qu'on n'a pas les données, on ne se prononce pas.
Alors, je comprends, mais le Royaume-Uni est inconscient, l'Agence européenne des médicaments est inconsciente, parce qu'eux l'ont autorisé pour toutes les classes d'âge.
Alors, l'Agence européenne du médicament donne un blanc-seing à un médicament ou un vaccin. C'est blanc ou noir, c'est-à-dire vous avez le droit de le vendre en Europe. Les agences comme la Haute Autorité de Santé disent quelle est sa place, comment on l'utilise. Et ça, c'est un pouvoir national, c'est chaque nation qui décide. Et donc, la Haute Autorité de Santé, elle donne un avis scientifique, ensuite le gouvernement décide. Hein.
Quand est-ce que vous aurez d'ailleurs les nouvelles études pour pouvoir vous prononcer sur les plus de 65 ans ?
Alors le laboratoire les annonce fin février, mi-fin février, dès qu'on aura les données, si on peut ouvrir aux plus de 65 ans, vous pensez bien qu'on le fera, puisque c'est eux qui sont les plus prioritaires par rapport aux moins vieux. L'âge, c'est quand même vraiment le facteur le plus déterminant de formes sévères et de mortalité.
Alors maintenant, voyons les moins de 65 ans. Le public, alors vous nous disiez, les 50-65 ans avec des facteurs de risque, notamment. Quel est le public qui est concerné ?
Alors, cette tranche d'âge, c'est environ 17 millions de personnes. Et puis, il y en a 4, 5, 6 millions qui ont ce qu'on appelle des comorbidités. Donc, on propose de commencer par ceci, puisqu'encore une fois, le but aujourd'hui, le vaccin, il protège soi-même, il protège l'individu d'une forme symptomatique et d'une forme sévère de la réanimation, d'un décès. On ne sait pas, pour l'instant, on n'a pas de données, il n'est pas sûr du tout qu'il protège contre la transmission. C'est-à-dire que vous pouvez contaminer quelqu'un. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrête pas de dire, même aux gens vaccinés, tant que toute la population ne sera pas vaccinée, il faut garder les mesures barrières et de distanciation sociale même quand on est vacciné.
Donc, on rappelle les comorbidités, ce sont tous ceux qui ont des facteurs de risque et des maladies type cancer, insuffisance rénale, diabète.
Exactement, dialyse, il y a beaucoup de catégories qui sont à risque. Nous sommes d'ailleurs en train de faire un travail plus précis parce que comme il y a beaucoup de science, hein, d'articles scientifiques qui sortent actuellement dessus, dans les 15 jours, nous allons affiner encore ces facteurs de risque.
Ce vaccin AstraZeneca, il va aussi concerner, cette fois, on va dire, tout le corps médical ?
Oui, pas seulement médical, hein, tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient.
En ville, à l'hôpital.
Quel que soit leur lieu d'exercice.
Ça veut dire que ce sont tous ceux qui sont exposés, en vérité, là, qui vont avoir droit au vaccin.
Oui, ils sont davantage exposés et puis on a besoin d'eux. Si on a une troisième vague, là, on a besoin des soignants. Hein.
Mais est-ce qu'on peut considérer que les enseignants sont des personnes exposées?
Alors, ils font partie des priorisations, mais dans la phase juste d'après. C'est-à-dire qu'ils, s'ils sont jeunes, hein, sauf s'ils font partie des premières catégories d'âge, ou de comorbidité, ils le sont, mais juste dans la phase suivante.
Alors, l'autre volet de vos recommandations concerne ceux qui vont pouvoir vacciner. On a beaucoup parlé, on en parle beaucoup ce matin sur RTL, des pharmaciens. Le ministère de la Santé disait il y a une semaine que nous n'aurions pas assez de doses pour servir les officines. Dominique Le Gulidec, vous ne craignez pas que le ministère retoque cette recommandation ?
Écoutez, de toute façon, encore une fois, modestement, mais le mieux possible, nous donnons des avis et le gouvernement les suit ou pas. Par contre, ce qui va se passer, nous donnons un avis qui est temporaire sur la population à vacciner avec ce vaccin parce qu'on attend des données. Par contre, c'est un vaccin qui est extrêmement bien toléré et qui est très facile à manier. Donc, nous pensons que sur le long terme, les pharmaciens peuvent, comme ils le font pour la grippe, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de vacciner pour la grippe, qui l'ont fait, eh bien, ils peuvent vacciner avec ce vaccin AstraZeneca.
Alors, vous savez que ce matin, on avait un représentant des pharmaciens sur RTL qui disait craindre des files de personnes âgées qui voudraient aller, parce que les personnes âgées vont naturellement à la pharmacie, sauf que là, on va leur dire, bah, pardon, mais vous n'y avez pas droit.
Non, mais ils ont droit, par contre, de façon plus prioritaire aux ARN messagers, aux autres vaccins. Alors, ils sont moins... on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire on en a... Les premiers sont très efficaces, mais difficiles à manier, donc il faut se déplacer. Mais ce qu'on a proposé également, c'est qu'il y ait des équipes mobiles hein, qui puissent aller vacciner, qu'on se rapproche le plus possible des gens.
Est-ce que le vaccin AstraZeneca ne sera disponible qu'en pharmacie, ou est-ce qu'on va le trouver aussi dans des centres de vaccination?
Non, il sera disponible quel que soit le lieu de vaccination, simplement il sera dédié à une population donnée.
D'accord. Vous ne craignez pas que les Français qui souhaitent se faire vacciner vont préférer aller vers le vaccin le plus efficace? Pfizer est efficace à 90%, AstraZeneca à 70%. Est-ce que vous ne pensez pas que les Français vont dire « mais moi je ne veux pas celui-là »
Écoutez, il n'y a pas d'obligation vaccinale dans notre pays, donc les personnes ont le choix. Mais ce que nous leur disons, c'est que l'efficacité est suffisante. Et que donc, vu la course contre le virus actuellement, il faut qu'ils se vaccinent.
Le taux de 90-70, on leur dit c'est la même chose.
C'est la même chose que la grippe, par exemple. Hein. Ça donne un point de comparaison. C'est la même efficacité que le vaccin contre la grippe.
D'accord.
Et il y a des millions de personnes qui se sont fait vacciner contre la grippe. Et ils ont eu raison de le faire.
Vous ne pensez pas que la prochaine polémique ce sera sur le choix du vaccin?
Je n'anticipe pas les polémiques. Nous disons tout ce que nous savons et rien que ce que nous savons.
Dominique Le Gulidec, on entend beaucoup parler du vaccin russe, hein, qui Sputnik V, qui affiche lui aussi un taux d'efficacité important. Emmanuel Macron a parlé de retour positif. Angela Merkel s'est dite ouverte. Dans la situation dans laquelle nous sommes, la volonté d'accélérer la campagne, vous dites ce matin, on en aurait bien besoin.
Je dis que tous les vaccins qui passeront les barres de l'Agence européenne du médicament, qui a des exigences de qualité d'essai clinique, de qualité de production, de contrôle, tout cela, on les examinera et s'ils sont bons, on les autorisera.
Le président l'a répété, vous venez de le dire aussi, il y a les vaccins, mais il y a surtout les gestes barrières, le fait d'éviter au maximum les brassages. Est-ce que les vacances de février pourraient permettre de freiner l'épidémie ?
Alors c'est ce qui a été observé, je ne suis pas une spécialiste là, mais ce qui a été observé c'est qu'en effet la dispersion et le fait que les gens aient un petit peu à l'air libre, tout ce qui évite le confinement et la concentration a tendance à faire un peu baisser la pression.
Mmh. Alors le virus varie sans cesse, on entend dire qu'à nouveau la souche anglaise a muté, ça vous oblige ça à revoir votre avis, vos avis ?
Aujourd'hui, non, puisque ce que nous savons, c'est que les vaccins que nous autorisons, l'AstraZeneca, on a encore des données préliminaires. Sur les données que nous avons aujourd'hui, ils semblent suffisamment efficaces sur les variants, en particulier les anglais. Pour le sud-africain, les études sont en cours. Hein. Les données sont encore pas totalement consolidées. Mais pour l'instant, on est relativement tranquille.
J'ai deux questions précises. D'abord sur les campagnes de tests, parce qu'on voit que les régions organisent des campagnes de tests pour inciter les gens à se faire tester. Vous allez donner de nouvelles recommandations sur les tests ?
Oui, nous sommes en train de travailler beaucoup sur les tests salivaires, puisque nous avions déjà autorisé ces tests quand les prélèvements nasopharyngés n'étaient pas possibles depuis septembre dernier. Nous avions été un des premiers pays, hein, d'ailleurs, à l'autoriser, à le rembourser. Par contre, nous avons, depuis, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Nous avons compris les difficultés de ces tests, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu plus compliqués pour le biologiste. Il faut pré-traiter la salive, il faut utiliser certaines plateformes de PCR après. Donc pour les salivaires PCR, nous pensons dans les 10 jours qui viennent rendre un avis qui favorisera beaucoup. Et vous voyez bien que dans les écoles, par exemple, faire cracher un gamin, c'est plus facile.
Il y a de nombreux malades du coronavirus qui se retrouvent avec des séquelles. Le coronavirus laisse des traces. Ces malades sont toujours soignés. Comment on les prend en charge ?
Nous avons constitué un groupe de travail. Là, nous sortons une recommandation, enfin ce que nous appelons une réponse rapide, quand on n'a pas encore beaucoup de littérature, la semaine prochaine.
Hein, et pour la semaine prochaine, d'accord.
Voilà, donc le groupe de travail est en cours.
Dominique Le Gludec, je le rappelle, vous êtes la présidente de la Haute Autorité de Santé HAS, et donc vous rendez des avis. Mais alors, comment on rend un avis ? Combien de voix décidées ? Est-ce que votre voix compte double ?
On a des processus, hein. On a des méthodes, et c'est ça qui légitime nos avis. Et nos méthodes, c'est d'abord l'indépendance, hein, contre tous les lobbies, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des laboratoires, vis-à-vis de tout le monde. C'est la pluralité des avis, c'est-à-dire que nous mettons autour de la table, nous travaillons avec ce qu'on appelle les parties prenantes, mais également
tous
les experts.
Vous êtes combien autour de la table ?
Ça dépend des sujets.
Ah.
Ça dépend, chaque sujet a son groupe de travail ou chaque commission qui s'intéresse. Et puis, nous incluons beaucoup la société civile, les patients, les personnes dans nos groupes de travail. Nous faisons des consultations publiques. Vous avez vu que la priorisation, nous l'avons mis en consultation publique. Et ensuite, avec tout ça, nous essayons de faire la synthèse la plus juste possible.
Et je le rappelle, vous émettez des recommandations et le ministère décide.
Exactement.
Merci beaucoup Dominique Le Gludec.
Merci à vous et bonne journée.
La disponibilité des vaccins accélère dans notre pays, vient de nous dire la présidente de la Haute Autorité de Santé. Dominique Le Gludec qui confirme l'autorisation du troisième vaccin AstraZeneca dans un premier temps destiné aux 50-64 ans ayant des facteurs de comorbidité, soit 4 à 5 millions de Français, et les soignants au sens le plus large. L'intégralité de l'entretien comme chaque jour est à retrouver sur le site rtl.fr et nous retrouvons maintenant Cyprien Signy qui va surfer avec les déboires de l'Olympique de Marseille.
Un feuilleton à succès.
Un club qui vous est cher. Ouais. À tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
7h56, surfons avec l'Olympique de Marseille.
Ah bah encore plus fort que Plus belle la vie ou Les feux de l'amour, maintenant on a l'Olympique de Marseille, un feuilleton comme on les aime, avec au départ de l'amour, de l'espoir et un président Jacques-Henri Hérault qui y croit dur comme fer.
On est là pour faire partie du peloton de tête, qu'on retrouve du plaisir.
Évidemment.
Pour le plaisir.
Ah bah oui. On le sent bien le plaisir là, hein, cette année. Le peloton de tête est loin, les caisses sont vides, un record de défaites en Ligue des Champions et des supporters à bout de nerfs qui ont franchi la ligne rouge samedi.
300 supporters marseillais se dirigent vers le centre d'entraînement. La contestation vit rapidement à la guérilla urbaine.
Invasion du centre d'entraînement, vitres cassées, acte inacceptable évidemment. Et là, a priori, dans un endroit normal, on se dit qu'on va essayer d'apaiser un peu les choses, oui, de faire retomber la pression. Mais pas dans le feuilleton OM où des scénaristes sont sans limite, limitless comme on dit à Hollywood. Ça repart dès le soir même avec le président qui dit à Téléfoot.
Il y a deux visions qui s'affrontent ce soir. Il y a une vision de l'OM qui a fait des grandes choses, hein, mais de l'OM du chaos, de l'OM des magouilles, de l'OM de la chronique judiciaire, de l'OM des affaires.
Le président de l'OM qui parle de l'OM des magouilles et des affaires. Et là, le supporter basique. Hein.
Je suis en train de péter un câble.
Ouais, ou pas loin, hein, c'est plus de l'huile sur le feu, c'est du kérosène qu'il est en train de mettre. Même Bernard Tapie, hier sur Info, avait un message pour le président Hérault.
Que la comédie s'arrête. Il doit comprendre qu'il n'est pas à sa place. Il a fait la démonstration qu'il était certainement doué pour plein de choses, mais en tout cas, pas pour diriger l'Olympique de Marseille. Si ça vous amuse de me parler des commentaires de cet abruti, je raccroche.
Ambiance, ambiance. Après, c'est vrai que Jacques-Henri Hérault, niveau communication, parfois, c'est qu'on dirait étrange. Hein. C'est déjà lui qui avait expliqué.
Quand je suis arrivé ici, j'ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. Je pense que c'est un danger. L'impact qu'avait une défaite était fort. Et ça, ça va pas.
Bah oui, trop de Marseillais à Marseille, c'est pas possible, c'est QFD. Et puis alors, face aux incidents de samedi, dans un communiqué, ils dénoncent, je cite, des forces obscures avant d'enchaîner à la télé.
Tout ça sert d'alibi à ceux qui œuvrent pour la stratégie du chaos permanent.
C'est le côté obscur
qui attaque l'OM, donc, hein, oui, ça va loin, il y a même de la science-fiction dans cette série. Alors, bouquet, mais pas encore final, hier midi, surprise de l'entraîneur.
J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction.
Le coach qui dit, je m'en vais, hein, et deux heures voilà. Plus tard, le club qui dit, non, non, on te met à pied, genre, on te vire un peu.
Je ne veux plus jamais te revoir, je t'interdis de me faire honte en public.
Ça me brise le cœur.
Eh oui, c'est ça l'OM, hein, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore, et à chaque fois, les joueurs, les présidents et les entraîneurs passent, et à la fin...
Les supporters, eux, ah bah ils sont toujours là.
Merci Cyprien, on vous retrouve ce soir avec Thomas Soto entre 18 et 20h.
À ce soir.
À tout à l'heure. Louis Baudin, notre météo.
Oui, avec de la pluie, du vent jusqu'à 90-100 km/h sur les côtes bretonnes en ce moment. C'est l'ingrédient qu'on va ajouter aujourd'hui à ce temps très perturbé. Du vent qui atteindra les 80-90 km/h, y compris dans les terres en Ile-de-France, Vallée de la Loire, toutes les régions proches de la Manche, avec encore des averses, parfois accompagnées d'orages. Ça circulera sur toutes les régions. Au milieu de ces averses, quelques éclaircies. On aura un petit peu de lumière par moment seulement. Et puis dans l'extrême sud, c'est vrai qu'entre les Pyrénées, la Méditerranée, là ça restera sec, mais avec également de plus en plus de nuages au fil des heures. Les températures, là ça reste doux pour la période, pas de gelée en ce moment. 10 à 14 degrés cet après-midi dans la moitié nord et 14 à 18 degrés dans la moitié sud.
Merci Louis Baudin, bonne journée à tous. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une du rififi dans la franc-maçonnerie.
Il y est question de tentative d'assassinat de militaires de la DGSE. Les détails dans ce journal. Dans l'actualité également, la recette anglaise. Comment le Royaume-Uni a-t-il fait pour vacciner déjà 10 millions de personnes? Et puis Neymar et ça repart. 4 ans de plus au PSG pour le Brésilien.
RTL Matin.
Mais tout d'abord, une toute petite voix, celle de Ruben. Il a 9 ans et il est patient, ce petit garçon, car ses deux parents sont en ce moment sur le Vendée Globe. Il ne les a pas vus depuis le départ, depuis le 8 novembre. Sa maman, Samantha Davis, se trouve en ce moment au large du Brésil. Et son papa, Romain Antanasio, est loin devant. Il doit débarquer ce week-end au Sable d'Olonne. Ruben les attend tranquillement.
C'est pas si long que ça, en fait. Je connais le bateau, je navigue aussi. Ils font souvent des courses, du coup, je me suis habitué. Bah, je commence à m'exciter parce que papa, il arrive samedi et ma maman, elle est loin. Et ça, c'est pas habituel parce que normalement, c'est maman qui est premier parce qu'elle a des feuilles, mais là, c'est pas elle.
Quels seront tes premiers mots à ton papa quand il va arriver?
Les premiers mots, c'est que tout s'est bien passé à la maison.
Si papa et maman te disent « dans 4 ans, on repart ».
Je leur dirais que c'est bien. J'aime bien qu'ils font des courses. Ça décore la maison hein, quand ils reviennent avec des coupes.
Et toi, plus tard, tu veux devenir aussi un marin de la course au large?
Oui, je veux faire le tour du monde. C'est de faire le Vendée Globe.
Voilà, le petit Ruben dont on n'a peut-être pas fini d'entendre parler. Il était avec Patrice Gabart. Venons-en donc à cette affaire qui a des allures de polar de John Grisham. Sauf que tout est vrai et on va dans cette histoire de surprise en surprise. Nous vous racontions il y a quelques semaines sur cette antenne cette tentative d'assassinat contre une chef d'entreprise de Créteil près de Paris. C'était l'été dernier. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Vous suivez cette affaire pour RTL. Des militaires de la DGSE avaient été arrêtés, retrouvés à bord d'une voiture volée avec des armes. Et parmi les commanditaires présumés arrêtés la semaine dernière, il y a un homme, vous nous l'apprenez Thomas, un homme qui n'en serait pas à son coup d'essai.
Oui, c'est un des complices qui l'a révélé lors de sa garde à vue, d'après une synthèse judiciaire que RTL a pu consulter, à la stupéfaction des enquêteurs de la brigade criminelle. Selon lui, la cellule qui a tenté de tuer la femme d'affaires pour le compte d'un de ses concurrents a déjà liquidé un homme. C'était en 2018, un Corse installé à Levallois-Perret, près de Paris, pour une affaire de dette non payée. Assassinat bien réel et mis à exécution. Les restes de la victime ont en effet été retrouvés par un promeneur en septembre 2019, enterré dans un bois près du Puy-en-Velay, d'après nos informations. Jusqu'à la semaine dernière, l'enquête confiée au parquet de Nanterre était restée dans un brouillard complet. Elle vient de franchir un grand pas.
Et on parle aussi, Thomas, d'un deuxième contrat.
Oui, et là, encore, c'est ce qu'a raconté aux policiers le complice qui s'est mis à table. Cette fois, il s'agissait d'éliminer un syndicaliste gênant de Bourg-en-Bresse, selon les termes du suspect, qui affirme qu'il a réussi à faire faire capoter le projet. Qui a commandité ces contrats dignes du plus noir des films noirs? Les enquêteurs n'ont pas encore la réponse, mais ce qu'on sait déjà, c'est que le groupe criminel s'est formé au sein d'une loge maçonnique des Hauts-de-Seine. Au moins 3 comparses en sont membres. Autre caractéristique, des liens avérés avec des barbouzes, des agents des services secrets. D'ailleurs, l'un des complices est un ancien espion de la DCRI, le renseignement intérieur. Et pour au moins un contrat, vous le savez, la cellule a recruté ses tueurs à gages au sein de la prestigieuse DGSE, le renseignement extérieur. Un scénario à peine croyable qui n'a pas encore livré tous ses secrets.
Ça fait beaucoup d'affaires dans l'affaire, tout cela. Merci beaucoup pour tous ces détails, Thomas Proutot.
Il est 8h04, on revient sur Terre. Le feu vert pour le vaccin AstraZeneca est une bonne nouvelle.
C'est ce qu'a dit il y a quelques minutes sur RTL Dominique Le Gudulec, la présidente du collège de la Haute Autorité de Santé. Le vaccin ira d'abord aux soignants et aux personnes de 50 à 64 ans qui souffrent de comorbidité. Emmanuel Macron a promis que tous les Français qui le souhaitent pourront se faire vacciner d'ici la fin de l'été. Mais on est aujourd'hui à plus d'1,5 million de vaccinés en France et on fait pas le figure. À côté de nos voisins anglais, le Royaume-Uni, pays le plus touché d'Europe avec plus de 100 000 morts, on le rappelle. Ce pays vaccine à tour de bras. La barre des 10 millions devrait même être franchie aujourd'hui. Et samedi, Marie Billon, on a franchi un record, 600 000 piqûres en une seule journée. Mais comment font-ils ?
D'abord, le vaccin est un sujet politique. Boris Johnson en fait une question de fierté nationale et le gouvernement s'était fixé un objectif. Pour début février, il fallait donc mettre les bouchées doubles. Mais pour obtenir ces jolis chiffres bien populaires, l'État britannique s'en est donné les moyens depuis longtemps. Il a acheté plus de doses qu'il n'en a besoin avant même que les produits ne soient approuvés. 400 millions de doses en tout, assez pour vacciner tous les Britanniques 3 fois, même si aujourd'hui seuls l'Oxford AstraZeneca et le Pfizer BioNTech sont disponibles. Mais le gouvernement a mis en place tout un arsenal logistique. On vaccine partout, dans les hôpitaux, les cabinets généralistes, dans les pharmacies, mais aussi dans des églises, des mosquées, des musées, des hippodromes, des salles de concert ou encore un parc aquatique et même un ancien grand magasin. Mais tout ça ne servirait à rien s'il n'y avait pas des milliers de travailleurs de la santé pour envoyer les lettres de convocation ou appeler les candidats au vaccin, même le week-end, même tard le soir, pour leur demander s'ils sont disponibles pour la piqûre dès le lendemain parfois. Et puis il y a aussi des centaines de volontaires pour aider à diriger les flux de personnes devant les centres de vaccination et bien sûr les docteurs, les dentistes et autres personnels qualifiés qui ont suivi une formation pour administrer le vaccin pendant leur temps libre.
Marie Billon, les experts de l'OMS dans le Saint-des-Saints, l'équipe chargée d'enquêter sur l'origine de la pandémie est en ce moment dans l'Institut de virologie de Wuhan en Chine, objet de tous les fantasmes accusés par Donald Trump d'avoir laissé s'échapper le virus, ce que le pouvoir chinois a toujours démenti.
8h06 en France, le code du travail s'adapte à la crise et aux nouvelles contraintes sanitaires en entreprise.
Un décret va être publié pour autoriser les salariés à manger devant leur écran ou sur leur bureau. Alors aujourd'hui, c'est interdit, même si ça se fait déjà beaucoup. Mais là, au moins, les choses seront claires. Sébastien Rouxel a promené son micro dans le quartier d'affaires de la Défense.
Plus de restaurants, plus de cantines. Sandrine n'a pas vraiment le choix. Chaque jour, elle commande à manger et déjeune à son bureau. Au moins, c'est rapide.
5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, on peut continuer à travailler. On déjeune vite, on travaille vite et on s'en va vite.
Manger plus vite pour partir plus tôt ou comme Jérôme, pour faire du sport.
Ça va permettre de gagner du temps parce que j'utilise l'heure de déjeuner pour aller courir. Une heure, pour moi, le temps du déjeuner, c'est un peu du temps perdu quelque part, donc autant le maximiser. C'est la solution idéale.
La solution idéale, peut-être pas pour Sébastien, il faut dire que ce n'est pas très propre.
C'est un peu sale hein, de manger, d'en mettre partout sur les claviers, tout ça. On met du pain partout, quand on essaie de mélanger la salade, on en met partout, donc c'est pas super propre quoi.
Manger tous les jours à son bureau, pour Karim, ça devient pesant.
On déconnecte pas, on est 24-24 sur notre poste de travail en gros, il n'y a pas de réelle coupure. On arrive devant notre écran, on est tête baissée, on travaille, on mange, on travaille, on mange. Plus d'interaction avec personne.
Karim n'a qu'une hâte, retrouver ses collègues au restaurant d'entreprise et enfin discuter d'autre chose que du travail.
Reportage signé Sébastien Rouxel.
8h07, dans un instant, le blues des châteaux privés de touristes. Restez avec nous.
RTL Matin.
8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. Si les Français pourront bien partir en vacances en février, ils ne pourront toujours pas s'offrir une vie de château.
Les châteaux, comme les musées, hein, qui sont fermés. Le domaine de Chantilly, au nord de Paris, appelle l'État à l'aide. Dans la Loire aussi, les vieilles pierres restent muettes, comme celle du château d'Ussé. Un joyau en souffrance, où s'est rendu Christian Panvert.
Le château en tuffeau surplombe un vallon de verdure. Ce cadre idyllique qui inspirait Charles Perrault lors de l'écriture de La Belle au bois dormant ne reçoit pourtant plus personne depuis le 28 octobre dernier. Ce qui désespère Stanislas de Blacaz, le fils du propriétaire.
C'est un monument qui est très grand, il y a des jardins qui sont très importants, il y a des pièces qui sont tout sauf exiguës, donc il me semble qu'on pourrait accueillir facilement quelques centaines de personnes par jour étalées sur la journée sans que ça cause des difficultés.
En 2020, l'absence de visiteurs a représenté une perte de recettes d'environ 30%. Une partie des personnels est au chômage partiel. Il ne comprend pas pourquoi le secteur n'est pas éligible au fonds de solidarité.
On entretient un patrimoine qui fait venir du monde beaucoup d'étrangers qui font marcher l'économie locale. Et aujourd'hui, l'État nous ferme administrativement avec zéro aide. On engage des frais qui sont quand même assez importants pour pouvoir ouvrir au public. On a quand même des saisonniers qui ont travaillé. On a fait faire des brochures pour les visites. On a les abonnements pour les audioguides. C'est très compliqué d'être un monument qui est à vocation touristique et qui n'a pas un centime de recette. C'est pas une situation qui peut durer indéfiniment.
Stanislas de Blacaz espère pouvoir ouvrir très vite pour garder ses 11 salariés permanents et continuer d'entretenir le site.
Reportage signé Christian Panvert. Les États-Unis, l'Europe, la France, l'Allemagne, tous demandent la libération immédiate d'Alexei Navalny. L'opposant russe a été condamné hier à près de 3 ans de prison pour n'avoir pas respecté son contrôle judiciaire. Mario Draghi à la rescousse en Italie. L'ancien patron de la BCE a été prié par le président Mattarella de former un nouveau gouvernement après l'explosion de la dernière coalition. Et puis Jeff Bezos, le fondateur et patron d'Amazon, prend du champ. Il quitte son rôle de directeur général pour se consacrer notamment à ses engagements philanthropiques, mais il restera président du conseil d'administration.
8h11 en football, Neymar, 4 ans de plus au PSG.
Le Brésilien doit finalement prolonger son contrat à Paris. Un accord est imminent, Philippe Sanfourche.
Oui, l'annonce est venue d'un média brésilien et du même journaliste qui avait déjà révélé il y a 4 ans l'imminence du transfert de Neymar de Barcelone au PSG. Cette fois-ci, ce n'est pas une bombe, mais la confirmation d'une tendance, celle de voir la star brésilienne de 28 ans paraffer sous peu une prolongation de 4 ans dans la capitale. Alors qu'il clamait il y a encore un an et demi ses envies de retour en Catalogne, le Ney s'est depuis acclimaté à Paris, son ciel grisonnant et sa ligue impoussive. Il fait surtout le constat qu'à plus de 3 millions d'euros par mois de rémunération, aucun autre club n'est venu se positionner. Neymar, Paris, un mariage souvent houleux mais finalement durable, c'est maintenant à Kylian Mbappé de devoir se positionner. Le club souhaite sa prolongation tout en continuant de travailler sur le dossier Lionel Messi. Ce sera l'un ou l'autre, la crise sanitaire ne permettant plus, même au Qatar, de faire exploser tous les compteurs.
Philippe Sanfourche, PSG qui devra jouer sans Neymar ce soir, qui est suspendu. Paris accueille la lanterne rouge, Nîmes. Autre rencontre à suivre, Marseille qui se déplace à Lens au lendemain du départ fracassant de son entraîneur André Villas-Boas.
Et c'était le journal de Jérôme Florin.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h12 sur RTL, on chasse les fausses informations avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan dit-il vrai en écrivant que les stations de ski sont ouvertes partout en Europe?
Alors oui, c'est par un tweet que le président de Debout la France a signifié sa colère. Publié hier à 12h10 sur le réseau social, une photo d'un télésiège au-dessus de pistes de ski vides de sportifs alpins. Barrant ce cliché hivernal, une citation du journal Le Monde. Covid-19, les remontées mécaniques des stations de ski resteront fermées en février sans date de réouverture prévue. En bas à droite, en incrustation, Nicolas Dupont-Aignan, bras croisés, costume cravate qui nous demande de sauver la montagne. Au-dessus du photomontage, ce message, arrêtez cette folie. Les stations de ski sont ouvertes partout en Europe et le grand air n'a pas relancé l'épidémie. Le gouvernement s'acharne sur ce secteur sans fondement scientifique, suivi d'un lien pour signer une pétition. Alors les stations de ski sont ouvertes en Europe, c'est étrange parce qu'il ne semblait pas que... Bon, enfin, on va aller voir ça de plus près. Un pantalon fuseau, un forfait, une odeur de fromage fondu, voilà, là on y est. Et ben non, toutes les stations ne sont pas ouvertes en Europe. Il y a des spécificités chez presque tous nos voisins.
Alors, pour dire les choses simplement, il y a des stations qui sont totalement fermées et d'autres qui le sont partiellement.
Voilà,
d'accord.
Exactement. Commençons par les pays qui, comme la France, pourraient connaître une saison blanche. Dans ce cas, on trouve l'Allemagne et l'Italie. Angela Merkel a été la première en décembre à tirer la sonnette d'alarme concernant les contaminations lors des vacances de ski et l'Allemagne a fermé ses remontées mécaniques. En Italie, un décret du 16 janvier ne permet pas non plus l'ouverture des télésièges et autres téléskis et l'interdiction de se déplacer entre les régions prévaut toujours jusqu'au 15 février. Alors, le Figaro note tout de même qu'une station du Tirol Sud avait décidé d'ouvrir pour les fêtes de fin d'année avant de fermer à nouveau. En Espagne, plus de pistes ouvertes, mais les restrictions sanitaires font qu'il est difficile de s'y rendre puisque, par exemple, en Catalogne, il faut un motif de déplacement valable pour se déplacer entre régions et faire le chasse-neige n'y figure pas. Donc la plupart des stations sont fantômes. Par contre, en Suisse, les stations sont bien ouvertes mais les bars et restaurants fermés avec des restrictions et quarantaines de 10 jours notamment pour les touristes en provenance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Certains pays optent pour le ski
National.
National, et oui, endroit où il sera très difficile de faire la godille, hein, car les pistes sont réservées aux habitants. Oui. Alors c'est le cas de Andorre, où il faut se munir d'un forfait résident, tout en joignant des documents certifiant la résidence, afin de profiter des stations de ski de la principauté. Même chose en Autriche, hein, deuxième destination skiable en Europe. Les stations sont ouvertes, mais le gouvernement fait tout pour dissuader les touristes. Les nuitées sont possibles uniquement pour les voyages d'affaires. Quarantaine et masque FFP sur les pistes, mais le pays voit un grand nombre de skieurs étrangers et parle de durcir encore ses contrôles. Il est donc abusif, comme Nicolas Dupont-Aignan l'affirme, de dire que les stations de ski sont ouvertes en Europe. C'est ce qui s'appelle en fait descendre tout chousse, la piste de l'intox. Hein.
Merci beaucoup. Dans un instant, nous allons retrouver Michel Simès qui poursuit sa série sur notre alimentation. Ce matin, il va nous aider à déjouer l'ennui responsable parfois de petites fringales. Enfin, vous n'êtes évidemment pas concerné, Jean-Mathieu Bernard.
RTL Matin,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous revenez sur les raisons qui nous conduisent à manger plus que de raisons, justement. Vous nous expliquez récemment pourquoi et comment le stress peut faire grossir, mais on peut aussi affoler l'aiguille de la balance par ennui.
Eh oui, connais le gourmand qui est en toi et je te dirai comment le raisonner. C'est un peu mon propos ce matin. Mmh. Je voudrais m'attarder sur celles et ceux qui mangent quand ils n'ont rien à faire. Mmh. C'est d'ailleurs un profil qui s'est souvent révélé à la lumière des deux confinements. Hein. J'ai pas encore les chiffres pour le second, mais durant le premier confinement, je vous rappelle que les Français ont pris 2,5 kg en moyenne.
Alors, quels sont les symptômes du gourmand qui s'ennuie ?
Il adore le chocolat, les sucreries, il apprécie de le consommer quand il n'a rien à faire ou devant la télé, il va rarement au restaurant, il invite rarement ses amis à dîner chez lui, mais quand il conçoit de le faire, il prend le temps de cuisiner de bons petits plats. De même, quand il est invité, il fait honneur à ce qu'il y a dans son assiette. Derrière celui qui a tendance à manger par ennui se cache aussi parfois un procrastinateur. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un qui aime remettre au lendemain ce qu'il peut faire le jour même.
Quel est le rapport ?
Eh ben, payer ses factures, mettre de l'ordre dans ses papiers, ranger la maison ou faire la poussière, rien de plus rébarbatif. Et si vous repoussez l'échéance, bah, vous n'avez plus rien à faire. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Un petit détour par la cuisine. Oui. Et là, c'est le drame. Vous mangez alors que c'est pas l'heure et que vous n'avez pas faim.
Bon, à tous ceux qui se reconnaissent dans ces scènes d'une grande cruauté que vous venez de décrire, que conseillez-vous ?
À manger sans raison, on grossit plus que de raison. Il faut donc réapprivoiser deux sensations. La sensation de faim et la sensation de satiété. Mm-hmm. Pour manger, attendez d'en ressentir le besoin. Notre organisme sait se faire comprendre en envoyant des signaux sous forme de borborygme ou de fatigue. Ensuite, une fois attablé, faites en sorte de ne pas aller trop vite. Mm-hmm. La sensation de satiété, elle a besoin d'une vingtaine de minutes. Hein, on en a souvent parlé pour s'installer. Par ailleurs, elle nécessite que vous soyez concentré sur ce que vous faites. En l'occurrence, vous alimentez. Donc, oubliez les repas avec un écran posé près de l'assiette et concentrez-vous sur la texture, la saveur de ce que vous avalez après avoir soigné la mastication, j'insiste là-dessus. Et quand vous estimez être repu, eh bien, n'en rajoutez pas.
Bon, merci cher Michel, à demain.
À demain.
8h20, dans quelques instants, vous l'avez compris, un troisième vaccin arrive en France. Il s'agit de celui d'AstraZeneca, comme nous l'a précisé et confirmé au micro d'RTL et d'Alba Ventura, la présidente de la Haute Autorité de Santé. Nous allons faire un point sur cette arrivée avec Sophie Range. Et puis surtout, nous donnons la parole à la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. C'est elle qui s'occupe des achats de vaccins dans notre pays. A tout de suite sur RTL.
Calvi, RTL Matin.
Il est 8h23, AstraZeneca, le troisième vaccin, va donc être déployé en France dans les prochaines semaines. La Haute Autorité de Santé recommande qu'il soit proposé dans un premier temps aux personnes de moins de 65 ans. Ce nouveau venu va-t-il modifier notre stratégie vaccinale ? On y répond grâce à vous, Sophie Orange, de la brigade RTL. Bonjour Sophie.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Pourquoi la Haute Autorité de Santé ne recommande pas ce vaccin pour les plus âgés, Sophie ?
En fait, tout simplement parce que les experts manquent de données au-delà de 65 ans, pourront être vaccinés donc avec les injections Astra, les 50-65 ans qui souffrent de comorbidité, puis ceux qui n'en ont pas, et les 4 millions de soignants de cette tranche d'âge, soit au total 17 millions de personnes.
Et les vaccins vont arriver ?
Oui, mais pas à la vitesse espérée. AstraZeneca prévoit des retards. Seulement 2,5 millions de doses en février. C'était encore une vision optimiste. C'est beaucoup moins que ce qu'on attendait.
Alors, les contrats signés entre l'Union européenne et les labos prévoient-ils des pénalités en cas de retard de livraison, Sophie ?
Alors, d'après ce que l'on comprend via le ministère de la Santé, on verra ce que va dire dans un instant la ministre de l'Industrie, Pas de pénalité pour les contrats de précommande passés cet été, tout au début du processus. Seule concession, des clauses d'audit pour aller contrôler les sites de production, vérifier que les causes du retard sont avérées, qu'elles correspondent à ce qui est annoncé par le laboratoire. L'usine belge d'Astra a d'ailleurs été inspectée la semaine dernière. Chez Olivier Véran, on précise que les contrats portent sur des livraisons par trimestre, pas par semaine. Et donc, fin mars, seul Astra sera en retard. Pas Pfizer-BioNTech ni Moderna. Bon, on verra bien ce qui se passera à ce moment-là.
À vous entendre, Sophie, est-ce qu'on peut dire que les labos ont vendu du rêve? Ils nous ont fait miroiter des vaccins qu'on n'aura pas.
On peut dire qu'ils sont partis sur des prévisions de production avec forcément des aléas. Comme un entrepreneur qui vous dit que votre maison sera terminée fin juin et mi-juillet, vous n'avez toujours pas emménagé. L'Europe a joué le jeu de son côté en investissant 2,5 milliards sans savoir si à la fin on aurait des vaccins. Les labos se sont mobilisés également. C'est comme s'ils avaient construit une cathédrale en un an et non pas en 50. Mais il y a forcément des grains de sable et c'est la période que nous vivons actuellement.
Sophie, la solution ne serait-elle pas, devant l'urgence, de mettre les brevets dans le domaine public, un peu comme les médicaments génériques, pour que n'importe quel labo puisse produire des vaccins?
Sur le papier, c'est vrai, c'est tentant, hein. Alors, je vous passe les détails sur les licences obligatoires, licences d'office, mais sachez que dans les faits, un gouvernement peut demander que soit mis en place un tel processus, sauf que le problème aujourd'hui, c'est une difficulté de production. Pas de brevets, qui ne sont d'ailleurs même pas encore officialisés. Tout va tellement vite. Si tous les labos se mettent à fabriquer les vaccins d'Astra, Pfizer, Moderna, cela prendra des mois et des mois pour construire des usines et homologuer le tout. C'est donc sans doute une fausse bonne idée.
Il est 8h26. Bonjour Agnès Pannier-Runacher.
Bonjour Efkali.
Vous êtes ministre déléguée chargée de l'industrie. Vous avez en fait en charge nos achats de vaccins. Vous étiez présente hier à la réunion avant la prise de parole du président de la République. Quel était l'objet de ce rendez-vous? Mettre un coup d'accélérateur, pour dire les choses simplement?
C'était une réunion avec ceux qui produisent aujourd'hui du vaccin et ceux qui pourront, devront en produire demain. Donc c'est effectivement sur la base de ce qu'on a déjà construit, puisque nous avons 3 vaccins aujourd'hui qui sont livrés par des chaînes de production européennes, d'accélérer en utilisant toutes les capacités de production européennes et françaises en premier lieu.
Et est-ce que vous êtes en ce moment à la tête d'un commando vaccin, pour dire les choses là aussi peu directement?
C'est très exactement ça. J'ai mis en place un commando vaccin qui est directement sous la responsabilité de mon directeur de cabinet, avec des experts du public, des experts du privé, des gens qui ont fait l'industrialisation de vaccins et de produits pharmaceutiques. L'enjeu étant de contacter et mettre en relation l'ensemble des laboratoires et sous-traitants capables de fabriquer des vaccins, oui, pour lever tous les freins à la production. On va commencer par monter en production les sites qui vont déjà fabriquer en France. Vous savez qu'avec Olivier Véran, au mois de juin, nous avons lancé un appel à projet pour accompagner notamment l'industrialisation du vaccin. Et c'est comme ça que nous aurons en France Moderna, Pfizer et CureVac fabriqués en France, avec 3 entreprises, Delpharm, Recipharm Farm et Fareva. Nous allons les aider à monter en capacité, oui, mais nous allons élargir les participants pour aller plus loin.
Alors, que signifient les propos du président Macron nous disant hier que tous les adultes, et non pas uniquement tous les Français, je le précise, tous les adultes seraient vaccinés, en tout cas pourraient être vaccinés s'ils le souhaitaient, d'ici l'été? Et est-ce que vous nous le confirmez? Je veux dire, est-ce qu'on ne se trompe pas sur l'interprétation qu'on a fait?
Alors, nos objectifs, ils sont très clairs. C'était 1 million de vaccinés au mois de janvier, on est à 1,5 million. 15 millions de vaccinés au mois de juin, qui correspond à toutes les personnes vulnérables. Et effectivement, à la fin de l'été, tous les adultes qui souhaiteront être vaccinés pourront avoir accès au vaccin. Pourquoi les adultes? Parce qu'aujourd'hui, les tests vaccinaux n'ont pas été faits sur les enfants et donc il faut démarrer un cycle d'essais cliniques pour les mineurs.
Et vous nous affirmez que nous aurons les doses?
En tout état.
Vous avez fait des projections, vous êtes à la tête du commando, donc j'imagine que toute la journée, la machine à calculer est en route. Donc
alors, c'est très intéressant de voir comment on travaille. C'est-à-dire que vous avez entendu l'annonce de Pfizer qui avait diminué sa production. Oui. Pfizer a déjà rattrapé son retard dans les chaînes françaises. Il a plus livré qu'il ne devait livrer initialement. Vous avez entendu Moderna. Moderna devrait corriger dans les 3-4 semaines qui viennent. Vous avez entendu AstraZeneca. AstraZeneca, ça va prendre plus de temps, parce qu'AstraZeneca a un vrai problème industriel sur un de ses sites qu'il est en train de travailler, et nous avons réclamé à AstraZeneca de livrer depuis d'autres sites pour rattraper le retard. Et puis nous avons des vaccins qui arrivent, des vaccins qui vont peut-être arriver plus tôt qu'initialement prévu.
Lesquels?
Donc nous avons Janssen, Novavax va peut-être également présenter plus vite que prévu ses résultats cliniques parce qu'ils sont plutôt bons. Et donc, nous enchaînons soit des bonnes nouvelles, soit des mauvaises nouvelles. Et c'est en ajustant constamment que nous montons la production de vaccins. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes plutôt confiants sur notre capacité à proposer aux Français qui souhaitent être vaccinés d'ici la fin de l'été une vaccination.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout simplement accélérer la production, et est-ce qu'accélérer la production suffit pour, s'engager dans ce rendez-vous que nous propose le président de la République et que vous confirmez ce matin ?
Oui, tout à fait. Et je dirais même que aujourd'hui, telle qu'est partie la production, nous sommes en capacité d'atteindre cet objectif. Notre souhait, c'est d'aller plus vite, de produire plus vite, plus de doses, et d'anticiper les prochaines étapes. Les prochaines étapes, c'est notamment avoir des vaccins qui s'adaptent aux variants. Il faut l'anticiper maintenant. C'est un sujet qui peut arriver à l'automne. Il faut que, d'ores et déjà, les chaînes de production se mettent en place.
Alors, que vont faire nos usines françaises ? Est-ce qu'elles vont faire du flaconnage ? Est-ce qu'elles produisent du vaccin ? Et quand verra-t-on, je dirais, les premiers échantillons physiques prêts à être utilisés ? Est-ce qu'on peut on a un emploi du temps qu'on peut dégager ?
Oui, tout à fait. Le premier site de production qui démarrera, ça sera courant mars, pour le vaccin Moderna. Nous aurons ensuite un site de production qui démarrera courant avril. Ce sera pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Oui. Et au mois de mai, ce devrait être pour le vaccin CureVac. Là, nous attendons l'autorisation de mise sur le marché. Donc, je mets un conditionnel. Sanofi va pour sa part également produire. Vous savez que nous avons travaillé avec eux pour qu'ils produisent dans l'origine allemande du vaccin BioNTech-Pfizer. Oui. Donc ça va contribuer à monter les chaînes de production. Et puis, si leur vaccin a des résultats positifs au mois d'avril, ils démarreront également leur production.
Est-ce que le vaccin russe peut trouver une place dans cette panoplie à un moment ou à un autre ?
Tout à fait. Le travail que nous menons, c'est un travail avant tout scientifique. Donc, tout candidat vaccin qui présente un dossier à l'autorité européenne du médicament, avec toutes les données nécessaires pour une validation, sera examiné. Par principe, nous prenons des décisions scientifiques, pas des décisions politiques. Et ce qui nous intéresse, c'est la sécurité du vaccin et c'est son efficacité.
Un mot sur le dossier Valneva, entreprise française qui a dû partir en Angleterre pour produire et vendre son vaccin. Les Anglais seront de fait les premiers servis. Comment se fait-il que Valneva n'ait pas reçu d'argent français ?
Alors déjà, Valneva, c'est une entreprise qui a un site dont le seul site de production pour les vaccins était déjà en Angleterre. Je crois que c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il était en Écosse. Nous avons ouvert les bras à Valneva en leur proposant un certain nombre de financements. Ils ont considéré que ces financements n'étaient pas suffisants, qu'ils ne représentaient pas 100% du risque, comme cela leur était proposé au Royaume-Uni. Mais
vous nous dites, on a tenté le coup et en gros, on n'a pas mis assez d'argent sur la table.
Valneva n'a pas souhaité donner suite aux propositions du gouvernement français. Et on a travaillé en bonne intelligence et sans aucune agressivité, mais ils ont préféré suivre une autre piste. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas du vaccin Valneva. Encore une fois, les chaînes de production sont mondiales et l'Union européenne a d'ores et déjà réservé 60 millions de doses de vaccin Valneva. Enfin, dernier point utile, le vaccin Valneva, c'est un vaccin qui n'arrive pas avant la fin d'année 2021. Le premier vaccin français aujourd'hui, c'est le vaccin Sanofi.
Nous allons retrouver une certaine forme de souveraineté dans ces domaines stratégiques. En quelques mots, s'il vous plaît.
Je pense qu'on a mis le doigt sur le fait que pendant des années, nous n'avons pas suffisamment investi dans les industries de santé. Et c'est ce gouvernement qui, avant la crise de la Covid, avait réuni un comité stratégique des industries de santé et avait remis de l'essence dans le moteur, en accompagnant par exemple Sanofi pour la création d'une usine de vaccination évolutive. Oui. Contre Singapour, ou en tout cas qui était en concurrence avec Singapour, en augmentant la possibilité de financer des médicaments innovants. Donc il faut continuer et surtout il faut le faire au niveau européen, parce qu'on voit bien que la force des États-Unis, c'est d'avoir eu une autorité américaine qui a investi dans la recherche et le développement et l'industrialisation massivement. C'est la même chose que nous voulons mettre en place avec Thierry Breton et la commissaire santé.
Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'être venue ce matin faire le point sur l'antenne d'RTL, et j'ai bien compris que vous nous dites que nous serons au rendez-vous tel qu'il a été fixé par le président de la République, et ce sont bien tous les adultes qui pourront être vaccinés.
Être vaccinés.
Absolument. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Dans un instant, la météo à 7 jours avec Louis Bodin.
RTL Matin.
Louis Baudin, il est 8h36, on va faire une météo à 7 jours, assez simple et en une minute. Le programme est très clair, m'avez-vous dit, de l'humidité et du froid.
Oui, exactement, l'humidité, on l'a dit pour aujourd'hui encore, avec des précipitations, puis surtout ce risque d'inondation qui persiste dans le sud-ouest, au nord de la Seine notamment. Demain, alors ces averses seront encore là, mais un petit peu plus espacées, donc on aura un peu plus d'éclaircies, notamment dans la moitié sud. Les températures ne bougeront pas. Pour vendredi, de nouveau un passage pluvieux qui traversera toute la France, sauf les régions du sud avec encore de la douceur. Samedi, nouvelle perturbation très active avec encore de la pluie. Donc, vous voyez, le risque d'inondation va persister. Puis, à partir de dimanche, ça va être accompagné d'un refroidissement. Donc, dans le nord, on surveillera de la neige jusqu'en plaine, près des frontières du nord-est, peut-être dans le centre. L'Île-de-France sera juste à la limite. Et puis, en début de semaine prochaine, voire pour la semaine prochaine, on va continuer à avoir des perturbations, mais avec cet air froid. Donc, je vais affiner ça au fil des jours. Mais il est probable que je vous reparle de neige jusqu'en plaine. Alors, il n'y a plus le Moscou-Paris, mais il y a quand même un refroidissement assez net la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Louis Baudin. Il est 8h37.
Comme ça.
Partons ce matin en Loire-Atlantique sur le circuit automobile de Fès-Bretagne. C'est là que les services spéciaux de la police, comme la BAC ou le RAID, sont formés pour la conduite rapide, pour poursuivre des malfaiteurs ou protéger des personnalités. Bonjour Frédéric Veil.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Frédéric, vous avez passé une journée dans cette école de conduite spécialisée de la police. Ces stages sont encadrés par des moniteurs qui sont de véritables as du volant.
Effectivement, une vingtaine de semaines par an, 12 moniteurs, tous fonctionnaires de police, forment leurs collègues à conduire des véhicules rapides, le tout bien évidemment en sécurité. Mais avant de monter dans les voitures, ce stage de 2 jours commence par une matinée de théorie.
Alors, rapidement, avant de...
Michel Paulino, l'un des instructeurs.
On a essentiellement les services spécialisés de la police, donc les brigades anticriminalité, et également le RAID, la BRI, un PJ, les services d'investigation, les services de la protection. Tous les conducteurs qui conduisent nos grands ministres et par exemple le président passent par ce stage-là. On les forme pendant 2 jours, ils passent 3 tests, et s'ils ont les points, bah, ils sont habilités. Ils appellent ça souvent le Graal, en fait, hein, d'avoir l'habilitation de conduite rapide des véhicules de la police.
Alors, nous sommes à bord d'une Peugeot 208 GTI qui développe 208 chevaux.
Autant dire que casque et combinaison sont obligatoires dans ces voitures équipées d'arceaux de sécurité qui, comme vous l'entendez, vont très vite. Xavier est membre du RAID, sanglé dans son siège baquet. Il appréhende avant de partir en piste.
Je pense que 2 jours, ça va être très rapide. Il y a trop de trucs à apprendre.
C'est bon, t'es prêt ?
Prêt.
Eh ben vas-y.
Pierre est pilote instructeur.
Alors, je te laisse démarrer. Est-ce que c'est la première fois sur un circuit ?
J'avais déjà fait.
Après, on parle de circuit, pourquoi ? Ben, parce qu'on a des éléments de sécurité qui sont propres au circuit. Le premier qu'on peut voir, c'est le vibreur. Vas-y, va dessus. Comme tu peux l'entendre, ils sont hyper prenants. Après, on a des murs de pneus. Ça permet d'absorber un peu le choc. Hein. Après, tu peux apercevoir, là, c'est le bac à gravier. Faut toujours rentrer roue droite dedans. Parce que si tu rentres avec le volant, tu peux te mettre sur le côté. C'est pour ça que si on doit y aller, je prendrai le volant. Je te dirai, allez, on va au bac, on ressortira et on reprendra la session.
Bon, pas de sortie de piste ni de bac à gravier. Mais au sortir de cette session, Xavier est convaincu.
Et oui, j'ai déjà appris, là. Le placement, le regard, l'accélération en fin de virage, le freinage avant le virage. Je pensais pas que une petite 208 comme ça, c'était si énorme.
Les petites 208, comme il le dit, sont bichonnées car ce sont entre 500 et 600 policiers qui viennent chaque année dans ces stages organisés depuis plus de 40 ans. Le major Henri-Pierre Boiffard, le responsable de l'école.
Elle a été fondée en 1978 alors que la police avait décidé de s'adapter à la grande criminalité en achetant des véhicules plus puissants. Et donc, bah, il a fallu former les gens et c'est à ce moment-là qu'il a été décidé de créer cette école.
À l'issue de ces 2 jours sur circuit, plus de 50% des participants valident leur stage.
Une incroyable leçon de pilotage ce matin dans Vous êtes comme ça. Merci pour la balade Frédéric Veil. Un reportage à retrouver sur notre application mobile RTL.
RTL Matin, la face cachée de la Lune.
Il est 8h40, la pandémie de Covid a des conséquences insoupçonnées. Exemple insolite, Isabelle Choquet, la crise des dons de sperme.
Et le développement d'un marché parallèle, c'est un reportage du New York Times que j'ai lu dans Courrier International. Les donneurs de sperme américains sont épuisés, explique le quotidien. Ces 4 donneurs, c'est du sport et pas comme vous croyez. Il faut envoyer sa production dans des dispositifs de recueil ultra modernes, faire des tests ADN dernier cri, et puis parfois prendre sa voiture pour être à Dallas ou à Portland juste à temps pour la fenêtre d'ovulation d'une receveuse. Tout cela en plus d'un vrai travail. À la fin, les gens en ont marre des banques de sperme. C'est ce que dit Kyle. Ce Californien de 29 ans gagne sa vie dans l'immobilier. Mais en fait, il passe le plus clair de son temps à faire des dons de sperme en direct, c'est-à-dire sans passer par une banque. Il gère un groupe Facebook privé de près de 11 000 membres. Objectif, permettre aux demandeuses d'entrer en contact avec des centaines de donneurs avoir approuvé. C'est que mine de rien, le sperme devient une denrée rare, si on peut dire. Prenez la banque de sperme de Seattle, c'est l'une des plus grandes des États-Unis. Sur nos 3 sites, dit un responsable, nous avons généralement 180 donneurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 117. Le coronavirus a changé la donne. Les inscriptions ont été suspendues pendant les mois de confinement. Et puis les donneurs ont peur de venir dans ce genre d'endroit. Le recrutement est de plus en plus problématique. Alors les banques de sperme innovent. Certaines font de la pub près des sentiers sportifs. D'autres seraient même prêtes à verser un petit bonus en liquide, sans jeu de mots. Alors ça n'est pas légal, hein. Théoriquement, la rémunération doit seulement indemniser le temps passé et les frais de déplacement. Car les règles sont strictes dans les banques et ça complique encore les choses. Après le don, le sperme est mis en quarantaine pendant 6 mois. Et ensuite, le donneur doit retourner dans la banque pour réaliser un test sanguin. C'est anonyme et un homme ne peut pas donner à plus de 25 ou 30 familles, bien sûr, pour éviter les problèmes génétiques. Dans le même temps, depuis 10 ans, la demande en bébé semble absolument insatiable. C'est la légalisation du mariage homosexuel, les femmes célibataires qui veulent devenir mères, et puis un étrange effet confinement. Dans les centres de fertilité, le nombre de patients a augmenté de 30% avec la pandémie. Partout, c'est la foire d'empoigne. La banque de Seattle, par exemple, a proposé récemment 35 paillettes d'un homme particulièrement beau, il faut le dire. Je les ai mises en ligne à 6h30 du matin. Elles étaient toutes parties avant 10h, dit le directeur. Il n'avait jamais vu ça.
Incroyable.
C'est pourtant bien cher, plusieurs milliers de dollars pour une grossesse. Cher et compliqué. Voilà pourquoi les femmes se tournent désormais vers des voies moins légales, les fameux groupes Facebook et leurs Sperm Kings, les donneurs étalons. Ils donnent rendez-vous aux futures mamans dans des logements Airbnb loués pour l'après-midi. Le transfert de la semence se fait à la bonne franquette, dans un petit pot en plastique. Souvent, les hommes donnent gratuitement ou presque. Là, pas de réglementation, pas de traçage. Et les donneurs dévoilent leur identité. Certains postent même des photos avec leurs propres enfants. L'objectif, c'est l'insémination artificielle, mais certains hommes proposent aussi l'insémination naturelle, c'est-à-dire un rapport sexuel. On voit bien l'écueil, hein, la ligne entre l'altruisme et le sexe peut vite devenir floue. Il y a aussi les risques légaux, risque que la mère demande au donneur une pension alimentaire ou que le donneur veuille faire valoir ses droits sur l'enfant. Mais bon, à l'arrivée, c'est nettement moins cher. Une jeune maman témoigne, chacun de nos bébés a coûté 136 $. Les donneurs de sperme ne savent plus où donner de la tête, c'est le titre de cette grande enquête à lire dans Courrier International.
Je n'en reviens toujours pas, je vous remercie, je vous donne rendez-vous demain matin.
À demain.
Merci Isabelle Choquet, on a rendez-vous avec Laurent Gérard dans un instant.
7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves Calvi.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour tout le monde, nous rions déjà.
Oui, oui.
Un troisième confinement pourrait avoir de nouvelles conséquences économiques désastreuses pour notre pays. Faisons le point avec notre spécialiste François Langlais.
Bonjour, il ne faut pas voir le verre à moitié vide. Il faut voir le verre à moitié plein.
C'est-à-dire ?
Que se passe-t-il pendant un confinement ? Les gens restent chez eux et déprime.
Oui.
Du coup, il picole beaucoup plus, ce qui est profitable pour les marchands de vin. Mmh. Le pays pourra donc retrouver l'équilibre financier grâce à leur verre à moitié plein en Bordeaux, en Côte-du-Rhône, en Beaujolais village.
Oui, enfin, je rappelle que le vin est à consommer avec modération.
Si vous y mettez pas du vôtre, c'est sûr qu'on s'en sortira jamais. Autre bonne nouvelle, la consommation de survêtements va être relancée grâce à ce nouveau confinement.
Les Français vont vouloir faire du sport, vous voulez dire ?
Pas du tout. Puisqu'ils seront sous comme des barriques. Mais que se passe-t-il pendant un confinement ? Les gens ne sortent plus, et donc plus besoin de s'habiller élégamment. Mais pour regarder Motus affalé sur le canapé, ils auront besoin d'un survêtement.
Ah oui.
Il en va de même pour les chaussettes et les claquettes. C'est très bon pour l'économie.
Mais oui, mais c'est très mauvais pour la santé mentale, François.
Et donc très bon pour l'industrie pharmaceutique, qui va enregistrer un bond économique extraordinaire avec l'achat par tous les Français d'anxiolytiques, de neuroleptiques et d'antidépresseurs. C'est une très bonne nouvelle.
Bon, et les pauvres étudiants, vous en faites quoi ?
Un nouveau confinement est pour eux aussi une très bonne chose. Ils vont pouvoir s'investir dans la seule voie professionnelle d'avenir.
Mais laquelle ?
Le chômage.
Notre ami le chanteur Francis Lalanne a encore fait parler de lui en appelant l'armée à renverser Emmanuel Macron. Bonjour Francis Lalanne.
Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire bonjour. Pensez aux gens qui ont pas de bonjour. Je pense à eux parce que je les aime.
D'accord, d'accord. Inutile de nous le chanter, Francis. Revenons à votre appel à marcher sur la présidence.
Voilà, voilà.
Qu'est-ce que vous voulez faire à l'Élysée ?
Sur la maison du bonnet.
Mais ma faux loyer, je suis posé.
C'est pas possible.
Mais d'abord, il faut virer le tyran et le juger.
Mais qu'est-ce qu'il vous a fait au juste, le président de la République?
Il veut jamais que je chante pour le défilé du 14 juillet.
Ah, ah d'accord, on comprend mieux. Oui. Voilà. Et vous espérez donc le soutien de l'armée pour ce coup de force?
Ouais. Avec tous mes potes soldats, on va le déloger. J'ai des cuissardes pour tout le monde.
Faites attention, Francis Lalanne, vous risquez de vous faire arrêter pour sédition.
Mais non, les flics, c'est tous des copains.
Ah.
La plus belle fois, comme a dit, je t'aime. C'est un flic qui me l'a dit.
C'est peu de dire qu'une certaine confusion règne au sujet de l'efficacité de différents vaccins anti-Covid.
Ah
nous
bon
avons imaginé comment le roi du téléachat aurait su trouver les mots pour nous rassurer. Retrouvons l'inoubliable Pierre Belmar et sa complice Maryse.
Bonjour à tous les acheteurs, bonjour à tous et bonjour Maryse.
Bonjour.
Aujourd'hui, Maryse, un téléachat exceptionnel puisque nous avons sélectionné un magnifique, regardez, c'est bien arrivé, ce magnifique lot de vaccins.
Bah oui, comme c'est beau, quel est le premier vaccin, Pierre?
Eh bien, ma chère Maryse, il s'agit du vaccin Pfizer BioNTech, présenté dans sa magnifique trousse isotherme, qui résiste, Maryse. Écoutez bien, c'est important, à moins 80 degrés. Très pratique, donc, pour transporter un doigt coupé ou le rosé du pique-nique.
D'accord. Et comment cela fonctionne-t-il, Pierre?
Eh bien, il fonctionne très bien, ma chère Maryse. Avec 97% de protection, c'est énorme. Mais on me signale en régie qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais heureusement, j'ai ici le vaccin Moderna, dans sa double dosette ergonomique, très très pratique, lui aussi.
Oui, Pierre, mais est-ce qu'il marche aussi bien? Vous toussez, Pierre.
Oui, il marche, accrochez-vous, à 94%, et il vous offre non pas un, non pas deux, mais 3 mois de protection contre le virus.
Ah, et ensuite?
Eh bien, ensuite, ma chère Maryse, vous vous démerdez. Mais voici maintenant notre coup de cœur du jour, un lot de 6 vaccins, j'ai mis les 6 vaccins d'un coup, dans ce lot exceptionnel. Il y a un vaccin AstraZeneca, très rare, impossible à trouver en Europe, et qui offre 12% de protection aux plus de 65 ans. J'ai aussi ici, très très bel objet, un vaccin chinois Sinopharm avec une femme à poil au fond de la seringue.
C'est mon préféré.
Oui, ça n'est pas fini.
Bien sûr,
oui. Ce matin, il y a beaucoup de lots vaccins. Un vaccin russe, le Sputnik 5, qui brille dans le noir. Un vaccin cubain, très très beau aussi, également livré avec son petit parasol à cocktail. Un vaccin Sanofi, à faire soi-même.
Oui, c'est ça.
Et un vaccin avec un kit. Et un vaccin Pasteur, garanti sans aucun effet secondaire et même sans aucun effet du tout, ma chère Maryse.
C'est drôlement tentant, Pierre. Et combien coûte ce lot exceptionnel?
Eh bien, on le dit tous ensemble,
595 francs.
Les premiers pas de Joe Biden à la Maison Blanche confirment qu'il ne sera pas un nouveau Donald Trump. Ainsi, le nouveau président américain a annoncé qu'il allait organiser un sommet mondial sur le climat en avril. Faisons le point avec l'un des personnages influents de l'administration américaine, John Rambo.
T'as raison. Sleepy Joe, c'est vraiment pas le même style que Donald.
Ah non.
Avec Donald, on se marrait en organisant des bras de fer avec Kung Fu Panda, le gros coréen qui est coiffé comme un balai à chiottes. C'était la fête. Il y avait de la guerre atomique dans l'air. Joe, lui, qu'est-ce qu'il nous organise? Une réunion avec des écolos en sarouel qui mangent des graines. C'est un cauchemar.
Oui, le réchauffement climatique, c'est important quand même, John.
Fais pas marrer, petite grenouille. Tu vas me faire péter mes cicatrices. Tu crois vraiment que c'est Joe le dormeur qui va réduire le réchauffement climatique? Tu sais pas comment ça vit, un vieillard. Toujours un plaid sur les genoux et une lampe chauffante dans la gueule. Pourquoi tu crois qu'il a la tronche toastée comme une biscotte de beurre?
Il y a aussi la décision de Joe Biden de réintégrer les personnes transgenres dans l'armée américaine.
C'est pas avec Zaza Napoli qu'on va être la première puissance militaire du monde. Quand on fait la guerre, on fait pas du tricot. Et puis, me parle pas de ces trucs de transgenre, ça me rappelle un mauvais souvenir que j'arrive pas à me sortir de la tête.
Bon, alors racontez-nous, John Rambo. Je sens que ça va vous faire du bien.
Oh oui.
Avec mon pote Bobby, On était sur notre base, Pépère, un temps de transformer les Niakoué en rouleaux de printemps. Au pote Bobby, faut que tu saches qu'il avait l'habitude de se balader toujours à poil. À un moment, on était dans la cuisine, j'avais envie de me faire un hot dog et il y a eu une panne d'électricité à cause d'un bombardement des phases de citron. Mais j'avais trop faim, alors j'ai pris mon couteau et j'ai coupé la saucisse. Sauf que ce n'était pas une saucisse que j'avais dans la main, c'est la zigounette à mon pote Bobby. Maintenant, Bobby, il s'appelle Jacqueline. J'arrive pas à me sortir ça de la tête, colonel Jacqueline.
Je comprends. Et qu'est devenu votre pote Bobby ou Jacqueline? Oui,
il est devenu premier conseiller militaire en chef de Joe Biden. Alors que moi, je suis bon pour préparer des bols de quinoa à des écolos.
C'était beau cette fresque militaire.
Ah oui, toujours.
Qui contribue à la compréhension réciproque de l'humanité.
Oui, mais c'est ça en fait.
Et l'histoire internationale.
Et à l'ouverture d'esprit.
Et à l'ouverture d'esprit. Et donc, votre rendez-vous est un rendez-vous éducatif.
Voilà.
Je pense qu'on ne le dit pas assez
c'est
souvent.
Pour plaire à Camélia Jordan.
Absolument. Donc, nous allons vous souhaiter une excellente journée. Vous retrouvez sur le site rtl.fr et demain matin sur l'antenne d'RTL.
Voilà. Alors à demain.
Bonne journée.
Les fines saucisses, vous faites Cyril Lignac à midi?
Non, je ne sais pas encore ce qu'il va nous préparer. Je vais te découvrir dans quelques instants.
Ah bah vous venez d'arriver dans le studio, c'est parfait. Et en fait, on va avoir un poulet à la marocaine.
Exactement.
C'est plus raisonnable. Allez, à tout de suite, Cyril.
RTL Matin, Yves Calvi.
Je rappelle, cher Cyril Lignac, bonjour.
Bonjour.
Que les auditeurs vous posent leurs questions via notre site rtl.fr/participer. Et Cams aimerait connaître vos astuces pour faire un bon poulet à la marocaine.
Alors, ça c'est très difficile. Parce que la cuisine marocaine, c'est la cuisine des mamans.
Oui.
Donc, il y a mille et une manières de la faire. Alors, on m'en voudra pas, moi je le fais de cette manière-là.
Vous pouvez faire une très gentille maman, j'ai
aucun fait. Je prépare une marinade, donc je mets de l'ail que j'écrase, du poivre, du sel, je râpe du gingembre, je mets du curcuma, de la coriandre, du persil haché, je mets de l'huile d'olive bien entendu, du jus de citron, je prends la pulpe d'un citron confit au sel, que je coupe et je laisse à l'intérieur.
D'accord.
Ensuite, je brasse tout ça. On peut ajouter aussi, moi j'aime bien le razel hanout qui se mélange vraiment marocain de plein d'épices. Et là, j'y vais généreusement parce que j'ai vraiment besoin de cette marinade. Donc une fois que je l'ai, je prends mon poulet, je prends la marinade et là je le badigeonne comme si je le massais sous la peau, sur la peau, à l'intérieur, j'en mets partout et je mets même des olives au milieu du poulet et je mets, si j'ai un petit peu de pain, un peu de pain. Comme ça à la cuisson, le jus coule sur le pain, les olives donnent la sauce et là on a un poulet assez joyeux. Donc là on le cuit, donc là je le laisse mariner pendant une nuit.
Ah d'accord.
Et ensuite, je le cuis à la marmite. Donc, je démarre sur le feu. Je colore bien le poulet de tous les sens.
On retourne sur toutes les faces.
Voilà. Et ensuite, je mets une heure au four à 200 degrés. Je le laisse cuire. Ensuite, je sors. Et là, j'enlève le poulet. Il y a forcément le jus avec toute l'huile d'olive. Et là, je fais réduire. J'ajoute des petits oignons. Je fais caraméliser mes oignons dans la cocotte avec le reste de jus de poulet et les épices. Je laisse bien caraméliser. On peut rajouter du citron confit en plus. Je découpe le poulet pendant que la sauce se fait.
Très bien.
Et je remets le poulet à l'intérieur découpé. Et là, je mélange avec la sauce. Et là, vous m'avez l'air tellement heureux.
Non, je vais vous dire la même chose.
Je vous donnerai
un poulet sans confession.
Voilà. Dès qu'on a fini, on fait ce poulet.
Et la recette est à retrouver sur le site rtl.fr, sur notre application mobile. Merci beaucoup, Cyril.
Merci.
Rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Il est 9h.